pas de points à rajouter, il y a que de l'ordre du jour. Je vous demande d'approuver le procès-verbal du dernier conseil municipal, qui n'a pas fait l'objet de remarques particulières. Il en aurait-il en séance?
Non, comme d'habitude.
Alors, comme d'habitude, M. Bourguet.
Comme d'habitude, nous.
C'est revisité par M. Pokora et aujourd'hui par M. Bourguet dans le cadre du conseil. Des félicitations, M. Bourguet, vous êtes au goût du jour. Voilà, donc la culture, comme quoi ça peut servir, hein, entre deux séances de vote, hein, par un week-end pluvieux. Voilà, donc je vous remercie. Nous passons maintenant à l'ordre du jour, aux décisions municipales. Alors, décision municipale, on vous a donné une feuille volante car l'insertion dans le document dématérialisé n'est pas tout à fait au point, mais pour vous éviter une recherche fastidieuse, nous avons voulu faciliter. Vous l'avez quand même dans le mail, vous l'avez déjà reçu dans le mail. Les experts le savent. Donc, nous avons donc les informations municipales relatives pour la plupart à des conventions. La dernière, la première, pour ceux qui sont venus voir l'exposition Welias à la galerie de l'espace Morastel, était remarquable, peut-être pas assez suivie, mais vraiment assez originale. Nous aurons l'occasion d'y revenir, peut-être, dans d'autres instances. Vous avez ensuite dans des ateliers jardin et biodiversité, une thématique qui est chère à bon nombre d'entre nous. Don Juan, donc ce samedi, certains c'est toute l'année, mais là pour nous ce sera samedi. Voilà. Ensuite, par la fenêtre. Par la fenêtre, c'est aussi une formule qu'on n'emploie pas souvent ici, puisque c'est. Mais c'est de la lecture. Donc c'est une dénomination très pacifique. Ensuite, vous avez les procédures adaptées. Supérieur à 90 000 euros. Alors là, c'est les bureaux Veritas, c'est les vérifications périodiques qui touchent les engins de levage, les installations électriques, les contrôles pieds périodiques, espaces scéniques, installations gaz, ainsi de suite. Bon, c'est tout ce qui est dépenses incompressibles et obligatoires et qui nous garantit justement d'éviter des accidents, en tout cas de les anticiper. Nous avons aussi les avenants. Alors, avec des prolongations sur les questions de nettoyage par rapport aux bâtiments communaux, des prestations de services pour la propreté urbaine. Ensuite, vous avez toute une série d'avenants qui sont liés à la prolongation du marché en page. Elles ne sont pas paginées, mais vous le voyez, ce ne sont pas de grosses sommes, mais qu'il fallait faire avec également les impressions, les livraisons de supports de communication, voilà, qui n'appellent pas à mon sens de commentaires particuliers. Voilà. Donc, nous allons passer, si vous le voulez bien, à l'installation de Madame Corco. Suite à la démission de Monsieur Santapo, qui a été reçu en mairie et validé par Monsieur le Préfet, accepté, donc j'expose qu'en vertu des articles L2121-4 du Code général des collectivités territoriales et L270 du Code électoral, il convient d'installer un nouveau conseiller municipal suite à la démission de Marc Santapo le 7 janvier 2017. Madame Paul Corco est installée en qualité de conseillère municipale et remplace Monsieur Santapo dans les commissions finances, dans les commissions suivantes. Les finances pour commencer, donc vous commencez fort aujourd'hui puisque c'est le débat d'orientation budgétaire. L'urbanisme et l'aménagement du territoire pour la deuxième commission et pour la troisième, sport et association. Je propose donc aux membres du conseil de prendre acte de l'installation de Madame Paul Corco en qualité de conseillère municipale de la commune de Moyaux-Carnon, d'autoriser Madame Corco à remplacer Monsieur Santapo dans les commissions évoquées ci-dessus, et de m'autoriser à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Voilà, donc Madame Corco, vous voilà intronisée, bienvenue dans notre cénacle, et en attendant de vous entendre ultérieurement. Voilà. Ensuite, on passe au, au document, au rapport d'orientation budgétaire. Avant de que va nous exposer Madame Favier, Caroline Favier, je souhaiterais, si vous voulez, rappeler que ce rapport, et plus débat, fort dans la sémantique en France, plus fort pour ça des fois que pour l'économie, le rapport d'orientation budgétaire, le ROB, est une étape obligatoire selon l'article L2312-1 du Code général des collectivités territoriales et essentiel à la vie démocratique de notre commune. Il informe l'équipe municipale sur la situation économique et financière de la collectivité afin de l'éclairer lors du vote du budget primitif. Le rapport d'orientation budgétaire présenté aujourd'hui tient compte des dispositions prévues dans la loi NOTRe, de la nouvelle organisation du territoire de la République. Il permet de présenter et de débattre sur les orientations budgétaires de la commune en matière de fiscalité, de dépenses de fonctionnement, sur la structure des effectifs, sur la programmation des investissements, dont il sera question tout à l'heure du budget 2017 et du PPI, du plan d'investissement prévisionnel, de la structure de la gestion de la dette. Je vous précise qu'aujourd'hui, il s'agit d'un débat d'idées et pas un examen financier d'une quelconque comptabilité, si ce n'est que nous commenterons, et je vous inviterai tout à l'heure à commenter quelques chiffres, des chiffres qui sont ceux qui nous ont guidés justement pour vous présenter ce débat d'orientation budgétaire, en précisant que les finances sont un moyen, elles sont au service du projet politique, pas de finalité en soi, mais une arme essentielle pour porter le projet politique. Bien sûr, plus tard, on rentrera dans le détail, dans les précisions, ce sera le vote du budget au mois de mars, où les choix débattus aujourd'hui trouveront une traduction comptable. En somme, ce budget, quand on parle de concertation, eh bien, c'est une concertation dans le cercle réduit qui est celui du conseil municipal. On vous fera des propositions, on les mettra au débat. J'espère que vous apporterez des idées qui sont la légitimité de ce conseil. Donc, tout à l'heure, nous allons procéder en deux temps, si vous voulez. Caroline Favier va vous présenter, dans le cadre qu'est la loi LOLF, la loi de budget 2017, va vous expliquer le contexte, vous exposer le contexte dans lequel ce budget va être préparé. Va vous parler également du travail qui a été réalisé par la commune et par les services. Nous aurons un temps d'échange sur cette première étape. La parole vous sera donnée. Ce que je souhaiterais, c'est que vous déléguiez une personne par groupe pour les échanges. Je souhaiterais pour que ce soit un facilitateur, c'est-à-dire il y a quatre prises de parole, je propose. Ensuite, il y aura un deuxième temps qui sera des propositions qui seront sur le budget 2017, les orientations, le PPI, sur les projets, sur lesquels également vous serez invité à débat. Voilà. Donc, nous verrons ce qui ressortira de tout cela, mais je tenais à faire part de cette ouverture. Je souhaite que cet échange soit un débat d'idées et pas un débat de chiffres. Les chiffres viendront bien sûr étayer les idées, très certainement. Voilà. Donc, l'art consommé de la critique systématique sera mon sens réducteur. Je vous invite à faire preuve d'écoute dans un premier temps et vous en remercie avant de céder la parole à Caroline.
Bonsoir. Tout d'abord, je vous prie de nous excuser pour la présentation. Pour des raisons techniques, le tableau est un peu. Le texte est un peu incliné. Pour l'instant, il n'est pas possible de faire.
Le débat est orienté, comme vous voyez.
Non, mais voilà. Alors, monsieur le maire, vous ayant défini l'objectif du rapport d'orientation budgétaire, nous allons voir maintenant plus en détail de quoi il est composé et surtout lui donner un sens en le rattachant à nos choix politiques. Alors, nous devons gouverner en fonction du contexte dans lequel nous sommes, bien sûr, la commune, c'est-à-dire la situation par rapport à la loi de finances 2017, mais aussi et surtout la situation par rapport à la situation financière de l'État. Alors, quel est le contexte général dans lequel nous sommes et quel en est l'impact sur notre commune de Moguio-Carmont ? Tout d'abord, le premier critère, c'est une baisse de la dotation globale de fonctionnement. Voilà, le premier tableau que vous avez d'affiché, que vous avez aussi dans les documents papier et par mail qui a été fourni. Donc, la baisse est moindre que ce qui était prévu au départ, mais représente tout de même pour notre commune une diminution de 294 000 euros par rapport à 2016. Donc le montant prévu de la dotation que nous allons percevoir est de 805 000 euros. Le deuxième critère est celui de la DNP, c'est-à-dire la dotation nationale de péréquation, qui a pour but de corriger les insuffisances de potentiel financier des communes. En 2017 comme en 2016, Moguio-Carmont n'est plus éligible à la part principale. Qu'est-ce que cela signifie et quelle en est la traduction politique? Nous ne sommes pas éligibles à cette DNP. Pourquoi? Parce que le taux moyen de fiscalité par habitant de Moguio-Carmont est inférieur au taux moyen de toutes les communes de même strate sur le plan national. C'est important comme information.
Non, on est dessous.
Non, je maintiens. Le taux moyen de fiscalité par habitant est inférieur au taux moyen des communes de même strate, c'est-à-dire de même taille.
L'État considère qu'à partir du moment où nous sommes en dessous du taux moyen des communes de même strate, nous avons une marge de manœuvre que nous pouvons actionner, nous. Et quand on est à fond, si vous voulez, c'est là qu'il dit, bon, ils sont allés plus haut que la moyenne, donc s'ils ont besoin d'aide, nous les aidons. Mais nous, politiquement, nous avons voulu préserver le pouvoir d'achat des ménages en maîtrisant la pression fiscale, de sorte que quelque part, on préfère, entre guillemets, perdre 120 000 euros, si c'est à peu près l'ordre de grandeur.
C'est à peu près ce que ça représente.
On préfère perdre 120 000 euros de DNP, mais exercer une pression fiscale modérée sur les ménages, autant que faire se peut, plutôt que d'être éligible et d'avoir 120 000 euros, mais d'avoir déjà pressuré un peu plus les ménages. Voilà.
L'État considère qu'on a encore une marge de manœuvre, on pourrait augmenter notre taux de fiscalité. Donc il ne nous verse pas cette aide, qui représente effectivement 120 000 euros de manque à gagner, on va dire, depuis sur 2016 et 2017, 2015-2016. Donc, quelle est la signification politique? Elle est forte, c'est que la volonté de l'équipe, sous l'impulsion, bien sûr, de M. le maire, M. Bourrel, et du premier adjoint, M. Cassa, de conserver une maîtrise des taux de fiscalité, d'une politique protectrice vis-à-vis de la population, en n'allant pas chercher dans la poche du contribuable ce manque à gagner, mais plutôt avec une maîtrise des coûts, comme je vous l'indiquerai plus tard lorsque nous étudierons les dépenses de fonctionnement. Troisième critère, le FPIC, c'est-à-dire le Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales. Entre 2013 et 2016, ce fonds représente 855 000 euros. Ce fonds en 2017 est estimé à 409 000 euros, c'est-à-dire une augmentation pour la commune de Moguio-Carmont de 53 000 euros par rapport à 2016.
Oui, je fais un petit commentaire. Vous savez que les participations sont divisées en régions, en intercommunalités. Il y a les intercommunalités qui sont en dessous de la moyenne et celles qui sont en dessus. C'est-à-dire, il y en a qui reçoivent, il y en a qui donnent. Et la solidarité, c'est ça. Eh bien, nous donnons. Et on donne plus que ce qui était prévu.
Voilà. C'est ça. Le quatrième critère, c'est le coefficient de revalorisation des bases de fiscalité. Donc, la loi de finances 2017 prévoit une hausse des bases de 0,8%. Le cinquième et dernier critère et indicateur qui détermine la situation dans laquelle nous sommes et avec laquelle nous devons faire, surtout, c'est l'évolution de la dépense locale. Cette évolution, elle est mesurée par l'ODDEL. L'ODDEL, ça signifie Objectif d'évolution de la dépense locale. Il s'agit là d'un outil d'analyse. Donc l'objectif pour l'année 2017, donc déterminée par la loi de finances 2017, c'est que l'évolution de des dépenses locales n'excède pas une norme qui est donnée, et donc par rapport au bloc communal, l'évolution, le taux maximal à ne pas dépasser est de 2,1% pour les dépenses totales et de 1,3% pour les dépenses de fonctionnement. Donc, pour pouvoir nous situer vis-à-vis de cette norme, pour information, en 2016, les dépenses de fonctionnement ont diminué de 3,51%, ce qui signifie pour la commune de Monguio-Carman une excellente maîtrise des dépenses. Alors, dans ce contexte que je viens de vous définir, comment se portent nos finances? Nous pouvons dire aujourd'hui que les bonnes mesures ont été prises au bon moment. Les efforts de gestion programmés en 2015 et 2016 ont permis d'atteindre sur deux années les objectifs qui étaient prévus initialement sur trois ans. Nous avons repoussé le fameux effet ciseau, vous vous rappelez qu'on en a parlé longuement pendant les différents conseils, qui était annoncé dès 2017 si on n'avait pas réagi à temps. Alors en effet, cet effet ciseau, il est défini par la qualité de notre épargne brute. Donc ce qu'on appelle l'épargne brute, c'est la différence entre les recettes de gestion et les dépenses de gestion. Et ce taux a augmenté de 8,71%. Donc on repousse l'effet ciseau d'au moins 3-4 ans. Quelle en est la traduction politique? C'est que nous pouvons réaliser sereinement maintenant les investissements prévus sur la durée du mandat. Il aurait été irresponsable de démarrer certains investissements lourds avant la confirmation, du rétablissement des indicateurs financiers déterminants, et c'est chose faite. À compter de 2017, les recettes de fonctionnement devraient progresser grâce à la poursuite des optimisations de gestion, mais toujours guidées par une équité sociale. Preuve en est la DNP dont je viens de vous parler, dont Monguio-Carman n'est pas éligible. Les recettes de fonctionnement vont progresser. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a une augmentation des bases de fiscalité de plus 0,5%, on l'a vu sur un tableau précédent. L'évolution des taxes sur les droits de mutation. Alors, il ne s'agit pas d'une augmentation des taux, c'est plutôt, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de ventes et d'acquisitions au niveau du marché immobilier. Une augmentation du fonds de compensation de la TVA. Là non plus, il ne s'agit pas d'augmentation de taux, c'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de dépenses éligibles, c'est-à-dire que l'assiette fiscale est plus large. Et notamment, il y aura une prise en compte des dépenses d'entretien, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. La taxation des logements vacants, les nouveaux sous-traités des concessions de plage, donc là, ce qui représente, on sera amené à le détailler plus tard, une variable quand même de 260 000 euros. Donc aujourd'hui, il est clair que la commune n'augmentera pas ses taux de fiscalité des ménages. À noter aussi que, toujours dans l'optique de garder une équité fiscale pour nos concitoyens, un travail de haute qualité a été réalisé par les services communaux et qui a permis de collecter entre 2014 et 2016 227 000 euros de produits fiscaux en contrôlant les piscines, les catégories de bâtiments et la matrice cadastrale. Au sujet des dépenses de fonctionnement maintenant, 2016 est l'année d'une forte baisse des dépenses. Je vous le disais tout à l'heure, nos dépenses ont baissé de 3,51% par rapport à 2015. Pour quelles raisons? Alors, la première raison, c'est la mise en place du plan d'économie lancé en 2015 et 2016. La deuxième raison, c'est la maîtrise des dépenses de personnel, moins 3,78% entre 2015 et 2016. Et grâce à l'optimisation, c'est la troisième raison, de la gestion de la dette. Alors, Monsieur Tricoire va vous détailler la partie sur les dépenses de personnel.
Donc, conformément à la nouvelle législation sur le DOB, je vais vous présenter les données générales sur la structure de nos effectifs, sur les dépenses du personnel et sur le temps de travail. À introduction, on va rappeler et souligner la baisse importante du volume financier lié aux dépenses de personnel. Entre 2015 et 2016, une baisse de moins de 3,78%. C'est assez important pour le souligner et en même temps, je vais profiter d'aujourd'hui pour remercier tous les services de la mairie pour leurs efforts consentis. C'est-à-dire qu'à notre demande, on leur a demandé d'avoir moins recours aux saisonniers. On leur a demandé d'établir des plannings qui pourraient faciliter la baisse des heures supplémentaires. On leur a demandé de mutualiser des services. Donc on voit qu'entre 2015 et 2016, une baisse importante a été réalisée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je les remercie. On peut voir sur le tableau, on peut comparer la masse salariale de 2015 et de 2016, donc avec cette importante baisse. Je vais vous parler de la structure des effectifs. Alors, pour 2014, on avait 321 titulaires. En 2015, 310. En 2016, 308. Une légère prévision en augmentation pour 2017. À chaque départ d'un agent à la retraite ou en mutation, une réflexion est menée sur l'opportunité de remplacer au nom de l'agent ou non l'agent en question. La fiche de poste est ainsi réétudiée au regard de l'évolution du métier concerné et des missions du service. Cette réflexion peut également permettre de repenser l'organisation du travail et la répartition des activités entre services. Dès lors, le nombre d'agents recrutés sur ces dernières années a été moindre par rapport au nombre de départs. En 2015, 20 départs, 9 recrutements de fonctionnaires ont été opérés. En 2016, 15 départs, 13 recrutements de fonctionnaires ont été opérés. En 2017, les prévisions sont les suivantes. Nous avons 5 départs à la retraite, 2 mutations, 3 disponibilités. Il sera effectué 10 recrutements, 5 pérennisations d'emploi, 1 réintégration après disponibilité. Maintenant, on va parler des effectifs contractuels. Les effectifs contractuels se répartissent en contractuels permanents et contractuels non permanents. Les contractuels sur emploi permanent sont essentiellement recrutés pour les remplacements d'agents fonctionnaires ou contractuels momentanément indisponibles. Leur nombre est variable d'une année sur l'autre. C'est difficile à prévoir et à planifier, puisque ces agents sont là pour remplacer certaines maladies. Et donc, ceci, on ne peut pas le prévoir. Donc, chaque année, une enveloppe est reconduite pour couvrir les dépenses imprévues. Les contractuels sur emploi non permanent sont essentiellement recrutés en accroissement saisonnier d'activité. L'effectif saisonnier a été en forte diminution, moins 14% en 2016 par rapport à 2015. En effet, le recours aux saisonniers s'est recentré sur les services dont l'activité varie lors de la saison estivale. Donc plus de saisonniers, quasiment plus sur Movio, et on a laissé les saisonniers sur Carnot puisque la saison est beaucoup plus effective. On va maintenant passer aux dépenses de personnel. En 2016, il a été demandé un effort financier concernant notamment le recours aux agents saisonniers. Les économies ont atteint près de 150 000 euros en raison d'une baisse considérable du coût de la surveillance des plages confiée à la SNSM. Réduction des périodes d'ouverture de la surveillance due aux nouvelles dates des vacances scolaires et suppression des heures supplémentaires suite à une nouvelle organisation du temps de travail. Donc, 0 heures supplémentaires pour la surveillance des plages. Il faut les remercier aussi, c'est eux qui ont réalisé la plus grosse économie en heures supplémentaires. Pour 2017, sans connaissance à ce jour des périodes de surveillance des plages, toujours pas effectives et décidées, il est proposé une prévision légèrement à la hausse, c'est-à-dire qu'on reprend la prévision de 2015, on le voit au tableau, de 215 500, on était passé à 177 000 réalisés, donc on reprend la même prévision pour 2017, je pense qu'elle ne sera pas atteinte, sauf événement météo estival, on ne prend pas trop de risques. Ensuite, on va parler de la réforme du parcours professionnel, carrière et rémunération, le PPCR. Une réforme d'ampleur des carrières des fonctionnaires territoriaux est mise en œuvre dès 2016 et se poursuivra sur 5 ans jusqu'en 2020. Cette réforme prévoit en outre la modification de la structure des trois catégories A, B et C, la modification des durées d'avancement et des grilles indiciaires, une cadence unique d'avancement d'échelon. En 2016, les agents de catégorie B ont été concernés, ainsi que les agents de catégorie A. En 2017, ce sont les agents de catégorie C qui sont concernés, soit la plus grande partie des effectifs de la collectivité, ainsi que l'ensemble des agents de catégorie A. Le coût prévisionnel de cette réforme s'élève pour 2017 à 75 000 euros pour les fonctionnaires. Ensuite, la valeur du point. Le montant de la valeur du point des fonctionnaires était resté gelé depuis le 1er juillet 2010. En 2016, il a été décidé une revalorisation en deux temps, plus 0,6% au 1er juillet 2016 et plus 0,6% au 1er février 2017, soit au total 70 000 euros d'augmentation pour cette valeur du point. Les dépenses relatives aux heures supplémentaires. La collectivité a mis en place une politique de réduction des heures supplémentaires. Les économies en résultat s'élèvent à 32 000 euros 142 en 2015 à 51 382 en 2016. Pour 2017, une légère augmentation du nombre d'heures supplémentaires est prévue en raison de l'organisation des élections. Vous n'êtes pas sans savoir que cette année, nous avons le droit à 4 tours. Et les 4 tours, heures supplémentaires et régime indemnitaire compris, s'élèvent à 30 000 euros. Voilà ce que coûtent les deux élections. Je vous laisse apprécier. Voilà, on en a fini avec les augmentations. Je vais vous parler du dernier chapitre pour la RH. Le temps de travail. La durée du temps de travail des fonctionnaires est passée, au même titre que dans le privé, à 35 heures hebdomadaires. Et ceci en janvier 2002. C'est le décret numéro 2000-815 du 25 août 2000 qui fixe à 1607 heures annuelles le temps de travail effectif des fonctionnaires territoriaux. Afin de garantir le décompte des 1607 heures annuelles, la mairie de Moguio s'est engagée dans une large réflexion autour de cette question sur le temps de travail. Dès lors, dès le 1er janvier 2016, un jour de congé exceptionnel a été supprimé pour l'ensemble des agents. Ça, c'était l'année dernière. Cette année, en 2017, c'est le nombre de RTT qui est réduit afin d'être ramené à 15 par an, correspondant au nombre devant être attribué aux agents effectuant du 37h30 par semaine. Enfin, une large concertation auprès de l'ensemble des services est menée afin de travailler sur une nouvelle organisation du temps de travail qui respecte nos obligations légales et améliore le service public.
Merci Laurent. Caroline, tu termines cette première partie. Alors, avant de vous donner la parole.
Je termine avec la gestion de la dette. Donc, pour vous confirmer que l'optimisation de la gestion de la dette a eu de beaux résultats et ça va continuer. Donc, les intérêts de la dette ont diminué de 26%. Suite à un remboursement anticipé en 2015 et à l'échéance de certains prêts. Vous avez le détail dans tous les documents qu'on vous a fournis. Donc là, je vais faire simple, j'ai pris simplement un focus. Le capital restant dû de la totalité de la dette de la commune est de 11 797 510 euros. La durée résiduelle, lorsqu'on prend jusqu'au prêt le plus long, j'allais dire qu'il nous reste à rembourser, il reste 12 ans et 7 mois, et la durée moyenne de la totalité de notre endettement est de 7 ans et 4 mois, c'est-à-dire très faible. 94% de notre dette est en taux fixe et un peu moins de 6% est en taux variable. Nous n'avons aucun prêt toxique dans nos prêts. L'ensemble de notre dette est qualifié en risque faible. En conclusion, le bilan financier est positif. Les ratios financiers sont au vert et permettent de financer sereinement un projet politique ambitieux au service de la population sans, je vous le redis, augmentation des taux de fiscalité. Donc, je vous propose un temps d'échange. sur tout ce que je viens de vous évoquer. Et sachant que plus tard, enfin après, dans un deuxième temps, il y aura un débat sur les orientations politiques, c'est-à-dire sur les projets. Donc un premier débat vous est proposé sur les chiffres qui vous ont été présentés.
Et les actions qui ont été
introduites. Et voilà, on a un dernier document qui vous présente la synthèse de ce qu'on vient d'évoquer.
Monsieur Grappelletti,
commencez. Alors sur les aspects financiers, donc il y a deux ans, il y avait eu un. Enfin, j'avais eu l'occasion de m'exprimer dans le Midi Libre sur, en disant qu'il y avait d'autres leviers que les hausses d'impôts. Et je dois constater que certains de ces leviers ont été utilisés, sont utilisés. Hein, à la différence d'autres communes ou d'autres agglomérations, dont la nôtre, à qui il faudrait que vous passiez une petite note de synthèse sur la façon qu'elle n'augmente pas elle-même ses impôts, puisqu'en fait les leviers sont les mêmes. Hein. Jusqu'à la taille qui change. Donc je compte sur vous sur ce point. Hein, vous pourriez dire que c'est de ma part.
Parfait.
Alors, donc, ce que vous proposez, ce que vous faites, ce que vous avez fait, moi, à mon avis, pas dans le bon sens, puisque ça s'accompagne, ça se fait au travers d'une négociation. Hein. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Parce qu'il ne faut pas que tout ça se traduise par une pressurisation des agents municipaux excessive, et évidemment sans détérioration de la qualité de service public aux citoyens. Donc cet angle-là est bon. Je pense que, je continue à dire, et puis je le dirai, et quand vous le ferez, je prendrai le risque de voter pour, parce que vous savez que la majorité des gens qui me soutiennent sont contents quand je vote pour des choses que j'ai moi-même proposées ou qu'on a proposées dans notre programme, mais on a deux, trois grincheux qui disent qu'ils voudraient qu'on s'oppose tout le temps. Mais c'est toujours bien d'avoir quelques grincheux.
Voter nous honore, monsieur
voilà, mais on les aime bien parce que c'est bien d'avoir des grincheux dans le panorama, ça stimule. Bon. Et donc, figurez-vous que... Michel Barral n'est pas là, tiens. Alors, figurez-vous que si vous donc baissez les impôts, eh bien, je vous annonce que je voterai pour. Voilà. Hein? Alors les 3-4 grincheux ne seront pas contents en disant mais Laurent t'as voté pour, enfin c'est une catastrophe, c'est un scandale, c'est inacceptable, mais tant pis, je prendrai ce risque là. Alors la question c'est pourquoi et comment, donc je vais aller très vite pour laisser la parole à mes collègues. Bon, d'autres communes le font, hein. Bon, dans la région on a l'exemple de Castelnau, hein, qui depuis 3 ans, 4 ans, alors vous allez me dire c'est pas pareil, etc. Bon, oui, mais bon, n'empêche qu'il le fait. La raison, c'est qu'effectivement, premièrement, c'est un signe fort dans le contexte actuel. C'est un signe, on dit pro-cyclique, je ne veux pas employer des mots trop savants, mais effectivement, en le faisant, on redonne du pouvoir d'achat qui est dépensé en circuit court localement. Et donc, ça réenclenche aussi la dynamique. Donc là, je parle des impôts à la fois au niveau des citoyens et au niveau des entreprises, hein, enfin, taxes sur les etc. Le deuxième point, c'est que c'est extrêmement important. On est dans un contexte où nos amis et nos collègues fonctionnaires, et moi vous savez que je suis d'un côté entrepreneur et de l'autre côté fonctionnaire, s'en prennent un peu plein la tête. Et c'est vrai que ça redorerait aussi le blason, ça fait partie de retrouver la noblesse du métier de fonctionnaire, que de montrer qu'on est capable de faire aussi bien, voire mieux, à ressources équivalentes. Ce qui veut dire qu'on gagne en productivité. Et c'est la bonne productivité, la mauvaise, c'est de virer tout le monde pour... La mauvaise productivité, c'est quand on licencie pour un. La bonne, c'est quand, à ressources équivalentes ou moindres, on continue à faire aussi bien ou plus. Donc, ce serait aussi bénéfique. Et puis, donc, la troisième raison, c'est que ce serait un signal fort en termes d'image. C'est-à-dire, on est sur un territoire où la tradition, c'est quand même d'avoir des impôts très, très élevés. Hein, on a les deux communes championnes de France, Montpellier et Nîmes, pas loin, qui sont championnes de France des prélèvements fiscaux. C'est vrai que ce serait un signe fort d'attractivité, hein, également pour les citoyens et économiques. Alors comment y parvenir? Il faut continuer dans le sens que vous avez pris et aller un peu plus loin. C'est-à-dire, en fait, compléter en fait, les éléments financiers, les budgets, par des éléments hors budget, extra-comptables, sur, effectivement, des actions négociées, concertées, donc toujours d'amélioration donc, de la qualité des services publics, sur les maladies professionnelles, sur l'absentéisme, sur la sous-efficacité quand on en détecte, qui est générateur de coûts, hein, vous savez que c'est dans le dada, de coûts cachés considérables, hein, qui est tout à fait possible d'exploiter. Et en faisant ça, il serait possible, de façon prudente, hein, de baisser la fiscalité, même si le contexte n'est pas facile. Bon, voilà. Et quand vous le ferez, là, je prendrai le risque de... Peut-être pour... J'avais juste une question. J'avais juste une question. Moi, je suis optimiste, qui sait. On en est où aujourd'hui? Donc, je vous ai envoyé, j'ai envoyé mes amis, donc des missions de conseil que j'ai fait sur le sujet. Enfin, il y a des cas, je veux dire, c'est pas théorique hein, ce que je dis, ça peut se faire. 1607 heures, vous avez dit, de travail annuel, ça c'est l'objectif, c'est ça. On en est où aujourd'hui? Donc, il y a eu des efforts qui ont été faits, mais on en est où aujourd'hui? En termes de réalité du travail effectif, est-ce qu'on en est très loin, pas très loin?
On n'en est pas très loin, on s'est fixé de manière proche, c'est-à-dire le mois de mai, que chaque service soit 1607 heures complet. Et on est un peu plus exigeant que ça, mais peut-être ça ne fait pas partie de l'orientation d'aujourd'hui, mais on vous en parlera. Ça sera, on a une saison, Mogliot Carnon, et plus sur Carnon que sur Mogliot. Et donc, ce retour aux 1607 heures, ce sera peut-être un bouquet d'heures qui sera consacré. Si on réfléchit un peu, on embauche de la masse salariale l'été, en gros, les saisonniers. Comment réduire encore cette masse salariale? Ce serait de remettre sur la saison un peu plus d'heures, mais ça se fait en partenariat avec les syndicats, avec tous les chefs de service. On est en train de réfléchir comment, d'un côté, réduire et produire un peu plus en saison.
Ça se fait dans une forme d'intelligence collective, voilà. Puisque par un rapport de force,
non, bien sûr.
Qui n'est pas le fait de la maison. Si vous voulez, on a, par rapport à l'absentéisme, on a un taux d'absentéisme relativement bas,
oui.
Parce qu'il y a le dialogue et les conditions de travail qui font que nous prenons en compte les aspirations, on met les collaborateurs en situation... de par la prévention, par la sécurité, par les plans de formation, par une écoute aussi. Une écoute qui n'est pas que catégorielle vis-à-vis de certains. D'une manière générale, bon, on essaie de respecter, bien entendu, les statuts et de les amener dans une dynamique. D'ailleurs, nous avons mis en route un projet d'administration qui associe largement les propositions des différents chefs DGA, chefs de service et collaborateurs divers et variés. On n'est pas, il n'y a pas que les catégories A qui passent, les catégories C qui exécutent. Les 350 collaborateurs titulaires font partie de la maison, du service public et sont consultés pour justement enclencher cette dynamique. Alors le temps de travail, effectivement, il nous manque 53 heures à peu près. Voilà, pour dire un chiffre précis. On a réduit de 2 jours les journées de récupération qui étaient un peu excessives au regard des moyennes nationales et un petit peu partout. Et pour boucler une réponse, je pense que vous avez pratiquement fini votre intervention, pour laisser un petit peu le temps à chacun de s'exprimer. Je pense, bon, au niveau des impôts, je précise que depuis 2006, nous n'avions pas augmenté les impôts quand nous les avons augmentés en 2015. C'est-à-dire que nous étions restés pendant 9 ans. Mais bien sûr, nous avions chaque année pris l'augmentation des bases. On n'avait pas baissé les impôts. Nous n'avons pas touché les taux. Nous avons eu, j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure, nous avons eu très peur, comme toutes les collectivités, je ferai un petit commentaire tout à l'heure, par rapport à tout ce qui a été exposé par Caroline Favier, et la nécessité de, pas de se ressaisir, mais d'affronter positivement les éléments. Alors effectivement, l'idée que vous proposez, c'est une idée séduisante. On peut y penser, pourquoi pas. Mais je ne peux pas aujourd'hui... Nous sommes dans des étapes de reconquête d'une certaine sérénité. J'en profite pour féliciter notre directrice financière, Mme Banque, et l'autorité du directeur et tous les services, et notre nouvelle adjointe aux finances,
dans un travail déjà commencé par Dany Glorant, la précédente, c'est un travail d'équipe. Je ne vais pas mettre un peu plus, mais l'occasion m'est donnée de dire qu'il y a un travail extrêmement professionnel et sérieux qui a été mené, et qu'effectivement, à l'instar de Jean-Pierre Grand, notre collègue de Castelnau, qui se retrouve avec Matelas, on aura l'occasion de parler de Matelas et de literie tout à l'heure, M. Pradey, je vous rassure, lui il se retrouve avec un excédent, mais je sais que vous n'êtes pas marchand de sommeil, et un excédent de 7 millions d'euros, et qui chaque année baisse un petit peu les impôts. Alors, soit on est dans la symbolique pour faire un style, soit on le fait vraiment de manière significative. Je ne sais pas si nous sommes en position de le faire de manière significative.
Si votre équipe est bonne, comme vous venez de le dire, et j'ai aucune raison de remettre ça en cause, écoutez, si elle peut le faire.
Si vous voulez, si vous vous retournez...
Yes, we can.
Si vous vous retournez, M. Capelletti, vous verrez le porte qui est entrouverte. Eh bien, on en trouve cette possibilité. Voilà. Message reçu. D'autres interventions ?
C'est moi qui vais. La fabrique à Paris. Je voudrais tout d'abord vous remercier par rapport à votre exposé, la manière dont vous l'avez amené. Je ne sais pas si c'est dû à vos qualités personnelles ou si c'est dû à une orientation.
On reste.
Ou si c'est dû à une orientation. À une orientation plus collective de votre groupe, mais le fait est que cet exposé-là permet d'être le socle d'un travail de fond intéressant, peut-être moins sur une orientation polémique et plus sur une orientation propositionnelle. Donc, par rapport, vu que vous l'amenez sur ce ton-là, je vais essayer d'apporter un éclairage sur ce ton-là. Il n'est pas temps, on est à mi-mandat, on peut essayer d'améliorer les choses, il n'est pas temps de polémiquer. Je ne ferai pas tout comme vous, mais je ne vais pas aborder tout ce que je ne ferai pas comme vous. Vous, je vais essayer d'aborder ce qu'on pourrait, les pistes qu'on pourrait avoir ensemble. Vous, sur la masse salariale, on voit bien, on est tous d'accord sur le fait que c'est un des gisements de maîtrise des finances publiques. J'ai bien vu le développer sur le non-renouvellement de tous les départs en retraite, donc votre politique est...
Non, vraiment systématique.
Votre politique est assez claire, et bon, il y a une politique, là, de management à ces occasions-là, à l'occasion des départs en retraite. Par contre, sur la masse des heures supplémentaires, vous avez fait... vous l'avez pris sur un ou deux angles, mais vous n'avez pas développé une politique de maîtrise des heures supplémentaires. Or, on sait que la Cour régionale des comptes avait attiré notre attention là-dessus. Donc, vous nous avez en plus donné un parcours chiffré, vous avez proposé un petit rebond, vous nous avez indiqué un chiffre pour 2015, pour 2016 de 205 882 euros. Je ne sais pas si c'est un chiffre de type budget ou si c'est le résultat. Est-ce que ça sera le chiffre que nous aurons au compte administratif, c'est-à-dire le chiffre apparaît à avoir recompté. Donc ça sera intéressant de voir à ce moment-là quel a été... que je me souviens que vous aviez fait une annonce importante. Je ne sais pas si c'est celle-là ou si c'est le chiffre du compte administratif. Donc si c'est le chiffre du compte administratif, ça a montré qu'il y a un parcours. Ah, je vois Madame Banque qui sait. C'est le chiffre compte administratif. Donc ça veut dire qu'il y a un parcours, une trajectoire qui est intéressante. Il y a un petit rebond là. Bon, je pense que la discussion la plus intéressante, c'est comment on maîtrise nos heures supplémentaires. Peut-être que les pistes pour mieux maîtriser les heures supplémentaires, c'est une approche peut-être contre-intuitive, c'est-à-dire mettre plus d'argent dans l'encadrement, pour avoir un encadrement qui, service à service, soit en capacité de se projeter sur l'année et soit en capacité de mieux tenir les services. Donc voilà, j'ouvre ce débat-là. Je ne sais pas quelles sont vos propres analyses, mais je pense que c'est un des points sur lesquels on pourrait travailler et qui est intéressant. Je pense que c'est une des plus fortes marges de manœuvre qu'on doit avoir avec la gestion des départs en retraite et des remplacements. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, je voudrais qu'on discute peut-être de manière assez importante du Fonds national de péréquation et de, des ressources intercommunales et communales. Vous voyez qu'il y a eu une explosion. Cette explosion, elle est pas, elle tombe pas du ciel, hein, puisqu'il y a la nécessité au niveau national, enfin, il y a la volonté au niveau national de faire un fonds d'un milliard qu'il faut alimenter, et certaines communes l'alimentent et d'autres communes en profitent. Pour pouvoir en profiter, il faut être en dessous de 0,9%. 0,9% du potentiel financier agrégé par habitant. Donc ça veut dire que c'est pas les, ce qui est le critère, c'est pas directement le budget de la mairie, c'est la richesse des habitants eux-mêmes. Et donc on a des habitants qui sont plus riches que la moyenne de la moyenne de l'agglomération, de la moyenne nationale. Alors, sachant qu'on a plus de la moitié de Moguio qui est en dessous de 1600 euros. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir deux ou trois millionnaires qui ne nous le disent pas, qui sont cachés. Alors, pour faire baisser ça, et pour plus payer ça, on a deux options. Soit les chopes, on les débarque, ce n'est pas l'option que je préconise, soit on a une autre approche. Démographiquement, on est à pas grand-chose de la moyenne nationale. On est en dessous, mais c'est récupérable. On a deux endroits où on a un trou. On a un trou sur les 0-15 ans. On a moins dans notre population de 0-15 ans que les autres mairies. On a plus... On est bien aussi. Vas-y, c'est la fête. Si le maire l'autorise, oui, mais...
Tu veux dire quoi, démographiquement?
Démographiquement, de la moyenne nationale.
Ah bon?
Oui, oui. Sur les 0,15 ans, oui. on est...
Vous savez pourquoi?
Oui, oui. Sur les 0,15 ans, on est un peu moins. Sur les 15-30 ans, on est bien. Chez les Tanguy, là, on est bien. Ceux qui vivent chez papa, maman, on est bien. Par contre, dès 30 ans, l'âge moyen où on fait les enfants, là, on est aussi en dessous. Donc, ce qui veut dire que si vous voulez faire baisser, je te ferai un cours particulier.
Dans les arguments démographiques, c'est très important ce que tu viens de dire. Ça veut dire que ceux qui sont contre les augmentations de population en milieu sont irresponsables.
Si monsieur le maire permet, je vais m'adresser à l'ensemble du conseil municipal plutôt qu'à mon collègue. Je suis disponible en semaine, hein. Il n'y a pas de problème. Donc, on a ces deux trous-là. Donc, on a le trou, en fait, des familles qui se constituent. Ils ne sont pas là, générationnellement. Et on a le trou des bébés. Si vous voulez faire baisser notre revenu agrégé, ou faire des bébés, parce qu'un bébé, ça n'a pas de revenu. Donc, ça fait baisser la moyenne. Ça nous évite de buter des millionnaires. Notez pas ça, après ça. Donc, vous voyez, c'est important d'avoir. Donc, il faut avoir une politique de logement des familles.
Ah, voilà.
Il faut avoir une politique très volontariste d'accompagnement, parce que les enfants nous feront baisser ça. Quand vous additionnez le coup de bambou qu'on prend, que vous avez décrit tout à l'heure, j'ai plus le chiffre. Quand vous voyez le coup de bambou qu'on prend sur le FPIC, et que vous agrégez
le coût de 3 000 euros de plus,
et que vous agrégez à ça le coût de bambou potentiel qu'on prend sur la loi SRU Allure sur le manque de logements sociaux, vous avez une solution. Si vous faites du logement social pour des familles et leurs gamins, vous avez une solution. Donc là, il y a un enjeu qui n'est pas moindre, c'est un enjeu à 1 million.
Vous êtes déjà dans la deuxième partie, monsieur Pradey. C'est bien.
Non, mais
on n'aura pas besoin de faire un transition.
Non, mais je
oui,
là, c'est bien. Le FPIC, c'est...
Sérieusement,
c'est, oui. Le FPIC, c'est l'endroit le plus important. Hein. C'est la variable qui explose. La question, c'est, est-ce qu'au lendemain de la présidentielle, ça va changer, ce fonds de solidarité nationale? Est-ce que les règles en changeront? Il y a deux chances sur trois que ça ne change pas. Ça sera très stable, ça. Donc ça...
Le FPIC est intercommunal, vous le savez. C'est pas la volonté des Melgoriens de se rapprocher de près, vraiment.
Non, mais si vous voulez, moi j'ai regardé ça sérieusement. On pourrait aussi demander, puisque l'aglo, la répartition entre les communes et l'aglo et la répartition entre communes pour la contribution, elle est discutable. Et donc j'allais vous proposer d'aller faire la manif pour qu'on paye un peu moins. Sauf que On a un fonds agrégé à peine. Nos habitants sont en moyenne plus riches que ceux de Palavas, par exemple. Sont en moyenne plus riches que ceux de la Grande Motte. On est surpris, mais c'est comme ça. Il n'y a que ceux de Saint-Onès qui sont un peu plus riches que nous. Bon, ce qui veut dire que le principal problème de l'agglomération du Pays de l'Or, c'est notre moyenne à nous. Donc il y a un seul moyen de régler ça, c'est d'avoir une politique proactive pour que des familles puissent se loger et faire des bébés. Pour changer notre moyenne. Dernier point, je le positionne là. Sur l'effet ciseau, on voit malgré tout, vous avez démontré qu'on avait des fenêtres d'investissement et des fenêtres de dette, puisqu'on a un effet d'escalier. On voit qu'on a des dettes qui vont arriver à échéance. Donc on voit là qu'elles vont entrer complètement dans l'effet ciseau. Donc si on n'investissait pas, si on était à taux zéro, on aurait des opportunités et l'effet ciseau se positionnerait pas. C'est la première fois qu'on a ce débat-là en agrégeant ce chiffre en plus. Donc là, on a des opportunités de dette qui sont intéressantes. Donc on arrive au bout des échéances. Ce qui me fait dire qu'on a un peu d'argent sous le coude. J'ai vu, j'en parlerai peut-être dans les années 60, je voudrais vraiment qu'on discute du handicap et de Carnon, parce qu'à Carnon, il y a des opportunités. Il ne manque pas grand-chose en aménagement à Carnon pour qu'on ait un truc super. J'en parlerai après. Merci.
Merci, Monsieur Poray, pour votre intervention, qui n'appelle pas de commentaires particuliers, puisque nous sommes en parfaite harmonie sur la politique de natalité et de revitalisation de la politique du logement. L'effet ciseau aussi, on y reviendra tout à l'heure dans notre commentaire. Pour les heures supplémentaires, écoutez, peut-être, Laurent, tu veux dire un mot ?
Je pense que pour les heures supplémentaires, on ne s'interdit aucune piste. On travaille avec tous les chefs de secteur et vraiment de service. On recherche partout comment on peut aménager le temps de travail. Il y a certains services qui ont même changé de temps de travail complètement. Qui font des journées continues, qui ont demandé à faire une journée continue à l'année, justement pour ne plus générer d'heures supplémentaires. Je crois que tout est ouvert. On est au début de la réflexion, on n'a pas passé tous les services en revue encore. On y travaille.
On va donner un exemple concret. Je ne dis pas quand, mais par le passé, il est arrivé qu'on subisse les heures supplémentaires. Les élus commandaient des heures faites par les collaborateurs, et puis on payait la note. Aujourd'hui, il y a un observatoire systématique d'engagement des heures supplémentaires. C'est-à-dire qu'il y a des heures supplémentaires, le principe doit être validé. C'est-à-dire qu'on assume l'heure supplémentaire dès lors qu'elle est liée, on l'a dit tout à l'heure, il y a des événements climatiques, des fois, bien sûr qu'on les signe. Mais ce qui veut dire qu'on ne s'engage pas résolument dans un service qu'on ne contrôle pas pour bien voir quels sont les tenants et les aboutissants. Voilà un exemple de maîtrise et de contrôle, de méthodologie. Et de, j'allais dire, c'est pas qu'on n'était pas dans le bon sens avant, mais on regarde davantage, on essaie de trouver ces marges-là. Voilà.
Juste d'un mot. On va être, vu qu'on la ville augmente et donc elle a des prestations, le fait de durcir l'encadrement et d'avoir des choses un peu mieux encadrées avec des cadres qui sont sensibles au management et qui sont capables d'anticiper à long terme. Un calendrier au plus près des services. Hein. Donc ça veut dire une montée en charge de tous les encadrements, c'est peut-être une solution.
Oui, c'est-à-dire que la structure des effectifs doit être, d'une manière générale, plus qualitative en termes de ressources humaines et en termes de productivité, même si ce terme n'est pas forcément lié à la fonction publique, mais c'est pas un gros mot. Un agent, un élu, il faut qu'on soit productif. Quelqu'un qui pense, un philosophe, un écrivain, il faut qu'il soit productif. Enfin, je pense que tout le monde, quelque part, selon où on veut, c'est le curseur, doit être productif. Hein? C'est pas un péché. Voilà. Et automatiquement, c'est sûr qu'on est moins dans de l'exécution, même si l'exécution, on dit que des fois les choses sont bien exécutées. Il faut bien déjà qu'ils exécutent. Voilà. Bien. D'autres personnes voulaient intervenir à ce stade? Non? Bien. Merci pour ces interventions. Nous avons pris bonne note.
Donc voilà, on a pris note de toutes vos remarques dans le but de travailler ensemble d'avancer par rapport aux remarques que vous avez faites. Donc après 3 années de construction des politiques publiques, c'est-à-dire diagnostic, études, les 3 années à venir seront dédiées à la réalisation maintenant des équipements structurants que M. le maire va maintenant vous présenter.
Oui, en quelque sorte, je fais un petit retour sur le commentaire qui découle des échanges que nous venons d'avoir. Donc, on est à mi-mandat. Globalement, le choix que nous avons fait, que j'ai fait, c'est le choix de la prudence, comme je l'ai dit tout à l'heure, le choix de la raison, quelque part, celui de rester au plus près des préoccupations des administrés, des Belgoriens, des Carnonais, travailler sur la proximité avec des services mieux rendus. Je sais qu'ils sont encore perfectibles, nous y travaillons. Alors, je ne vais pas revenir sur la litanie des avatars que toutes les collectivités ont connus au niveau des baisses de dotation qui ont été détaillées. Les objectifs d'économie à réaliser, et vous savez que parfois, on a l'impression de bien faire, mais c'est les chiffres qui parlent. Et les chiffres, ils ont parlé il n'y a pas longtemps. Les 3,51% des dépenses de fonctionnement, il y a 2 mois, je n'en savais rien. Je savais qu'on était sur la bonne voie, mais pas vraiment. Et si on a un petit peu poussé le DOB au mois de janvier, c'était aussi pour avoir une lisibilité de tout ce qui avait été fait dans l'exécution de l'année budgétaire. On a parlé des pénalités de la loi SRU. Si ça ne change pas, j'espère que ça va changer, on devrait payer au 1er janvier 2018, j'espère, moins de 170 000 euros, qui sont l'amende infligée aux communes carencées, dont nous faisons partie. On a parlé du FPIC, bien sûr. Et puis, puisqu'ici, j'aime le parler vrai. J'aime le parler vrai, je vous le dis franchement, on n'avait pas une épée de Damoclès, mais on avait une prévision à faire, parce que la raison imposait de le faire. On en avait parlé, je me tourne vers M. Pradeil notamment, ou vers M. Bourguet, sur la faune de Mouguiou, en fonction de l'évolution de l'ampleur de la zone urbanisée, on avait provisionné au moins 2 millions d'euros, imputables à la commune, même si l'opération est une opération avec un budget qui lui est dédié. Il y avait quand même une implication de la commune pour protéger ce qui allait venir comme urbanisation et ce qui était aussi à côté. D'une certaine manière, si nous ne dépensons pas ces 2 millions maintenant, il sera question d'un million un peu plus tard, on le verra tout à l'heure dans le PPI, c'est vrai que nous sommes délivrés d'une incertitude que nous aurions assumée au profit du logement, au profit d'une action un peu plus ample qui aujourd'hui de 31 hectares et revenu à 19, ça semble satisfaire certains. Ce sera une approche plus modérée, une approche qui se modulera avec la redensification, qui est notre levier de justement produire plus de logements, avec un outil qui s'appelle le schéma directeur, sur lequel je reviendrai pour justement éviter les effets pervers. Donc quelque part, ça n'est qu'au mois de novembre que le préfet nous a donné sa réponse, et ça n'est qu'en fin d'année que nous avons pu, disons, envisager un budget sans une inscription de 2 millions au moins d'euros qui n'aurait pas été, certes, imputé sur le budget 2017. Mais il y en aurait eu certainement un. Donc, on a préféré la prudence. Certaines communes près de chez nous, malheureusement pour elles, quand on arrive à des taux comme notre collègue de Pérol, où on dépasse les 30%, c'est vrai, c'est catastrophique comme ça. C'est vrai, on a fait des économies. C'est vrai aussi, nous avons baissé les investissements. Nous avons réalisé moins que ce qui était inscrit en 2016. On va revenir tout à l'heure sur l'îlot Prévert. L'îlot Prévert, on avait dit, on va en faire une partie. Et au regard des résultats, au regard de ce que nous avons réalisé ensemble, eh bien, nous allons en faire la totalité. C'est-à-dire qu'on va inscrire, et c'est plus intelligent, et c'est plus cohérent, je pense, de s'être un peu retenu pour pouvoir faire un meilleur projet plus abouti en une seule fois que de le faire en 2 fois en le faisant petit bras. Tout ça, je l'assume. C'est critiquable parce que vous allez me dire qu'on a mis des sous de côté, peut-être, mais au moins ça nous permet de voir plus loin. On commence un deuxième volet de mandat avec... Alors, c'était voulu, mais ce sont les événements aussi qui nous ont amenés. Moi, j'aurais souhaité ne pas avoir augmenté les impôts il y a 2 ans, il y a 3 ans. J'aurais préféré continuer sur la lancée précédente, mais 2 réformes successives de fiscalité où le dynamisme qu'on avait au niveau de la communauté, où les entreprises abondaient et qu'on a perdu, c'est quand même... tout ça s'est passé par là. Donc, première partie, prudence. Deuxième partie, une vision qui va se déployer non seulement sur le mandat, mais au-delà du mandat, avec, entre-temps, si vous voulez, une forme de maturation qui est celle de faire appel à un outil qui s'appelle le schéma directeur. Le schéma directeur, c'est quoi ? C'est une réflexion globale qui va nous amener à réviser notre PLU, avec, en gardant les objectifs que j'ai présentés au vœu il y a peu de temps, je vous la fais courte, la qualité du cadre de vie, pour moi, c'est essentiel. La qualité du cadre de vie, on va venir sur des sujets relatifs au stationnement, à la piétonnisation, au déplacement doux. Personnellement, je pense que, et c'est partagé par mes collègues, mes amis, nous sommes dans une phase, je ne dis pas que la chrysalide se transforme en papillon, je dirais qu'il y a quand même un changement d'échelle de la ville, du village, dont nous souhaitons garder l'âme et l'esprit, mais qui n'échappe pas quand même à une évolution nécessaire et qui doit être accompagnée. Et quelque part, ce travail, il peut se faire avec de la redensification en centre-ville, ce que je vous proposerai. Il peut se faire aussi par une extension, avec le projet dont on a discuté, sur lequel nous reviendrons, en concertation, en discutant. Je pense que ce cadre de vie va nécessairement rééquilibrer la minéralisation de l'espace avec l'antidote qu'est ce côté nature, associé systématiquement avec des compensations paysagères, des compensations dans notre manière de nous déplacer, une manière de revisiter la vie où tout le monde appelle de ses voeux des moments de rencontre, un événementiel au service de la culture locale, la préservation des identités et une redynamisation du logement. Alors, oui, je l'ai dit, j'ai dit toujours grandir oui, mais pas n'importe comment. Et je crois qu'à cela, nous y sommes très attentifs. C'est vrai, on ne s'est pas concerté, je vous remercie d'avoir pointé du doigt la carence, qui n'est pas une carence simplement administrative, mais elle est réelle. On ferme des classes. Et ça, ça ne va pas. Nous portons une part de responsabilité. Responsable, oui, coupable, non. Nous avons une responsabilité qui est celle, justement, de faire avancer la ville, mais d'une manière maîtrisée. Moi, ce que je vous propose, c'est une ambition maîtrisée, c'est-à-dire 1% d'augmentation de population, un rythme cadencé, régulier, sur les 15 ans qui viennent. Voilà ce que je vous propose. Après, on peut le discuter. Et ensuite, bien sûr, dans un dernier temps, je n'en ai pas parlé au vœu, on n'en a pas parlé aujourd'hui, je tiens à vous dire une chose, c'est que la commune, qui est la commune centre du Pays de l'Or, même si elle a confié sa délégation, sa compétence économique à l'agglomération du Pays de l'Or, et j'aurai l'occasion, mais je vais vous le dire tout de suite, participe et participera financièrement à l'élaboration, à la mise en place, à l'émergence de nouvelles entreprises, concrètement, sur la zone de fret, la zone aéroportuaire, nous avons une voirie, nous avons une entreprise, Thalium, qui aujourd'hui est passée en liquidation judiciaire, mais qui a été reprise par Nexity, un grand groupe, qui va construire pour le compte d'un... Certainement, ce sera ASICS, mais bon, on va voir. Va construire une base logistique de 60 000 mètres carrés, 70 000. Nous avons modifié notre PLU, vous le savez, on a transformé notre zone AUF. On a travaillé sur l'hôtel, modifié le PLU simplement sur la zone de l'aéroport. Et il s'avère qu'aujourd'hui, l'État nous dit la contractualisation des pièces nécessaires nous amène à être assurés que le réseau viaire qui sera celui qui desservira la zone sera calibré à hauteur des enjeux. Il faut, par le plus petit bout, 2 millions d'euros. Le département qui fait des routes nous dit « moi je veux bien, mais je n'ai plus la compétence économique, donc ça n'est pas moi le premier financeur ». La région dit « oui, on veut bien financer un peu ». L'aéroport nous dit « on financera un petit peu aussi ». L'aéroport, c'est aussi l'État. C'est-à-dire que l'État, lui, détient 60% des parts. Et on a fait un tour de table avec la communauté d'agglomération aussi présente qui détient la compétence économique. Le département a exigé que tous les financeurs soient autour de la table, pour de l'argent. Eh bien, la commune, pour que la chose se fasse. J'ai été le, j'allais dire, le trait d'union, puisque c'est la commune de Mouillot-Carnon qui, elle, est celle qui est la plus concernée en termes d'emploi, en termes également de fiscalité. Nous avons pris la décision, qui est celle, dans le dernier conseil, je vous l'avais dit, de baisser la taxe d'aménagement. On avait consenti une réduction de 80 à 85 000 euros, souvenez-vous. Donc on avait réduit le taux de 5% à 4% et demi ou à 4%, n'est-ce pas? Avec les deux révisions du PLU, c'est déjà 100 000 euros qu'on a laissé. On met une contribution de 150 000 euros. Voilà. Donc, et la communauté d'agglomération mettra 550 000 euros au pot. C'est-à-dire qu'il a été convenu qu'il y aurait 35% payé par le bloc commune intercommunalité. Je voulais vous en faire part pour montrer que nous étions également dans la contribution économique, politique volontariste. J'aurais pu me retrancher derrière notre petit doigt en disant c'est pas nous, c'est la communauté. Ce qui fait qu'on paye une fois pour la baisse des taxes d'aménagement, on paye une deuxième fois parce que nous sommes quand même la commune centre du pays de l'Or, et on paye une troisième fois, tout ça pour préserver de l'emploi. Ce que j'espère, c'est que il y aura une synergie entre cet emploi que nous créons et ces logements que nous allons également accompagner selon une programmation dont nous parlerons tout à l'heure. Voilà. Je tenais à vous exposer ces éléments et les mettre au débat par rapport, si vous voulez, à cette priorité qui sont le cadre de vie. Alors, vous avez à droite les réalisations qui sont prévues. Donc, en termes de sécurité, il y a le poste de police qui va être agrandi à Carnon avec le CCS également, ce qui nous a valu un bel article de mécontentement de certaines personnes qui ont une notion relative de la solidarité et de l'égalité. Nous avons également l'îlot Prévert. Vous le voyez, ça ne se fera pas tout cette année. Même cette année, on n'arrivera pas à consommer la moitié des APCP. On y reviendra tout à l'heure dans le point suivant. Sur les identités sur Carnon, nous avons la capitainerie donc, qui sera refaite entre 2017 et 2019, donc avec disons, lieu revisité, avec la base nautique également, 2017 et 2018, que nous inscrivons, le château à Mouguio, le jardin des Bosquets à Canon également. Voilà, ça c'est le côté patrimonial, le côté identitaire. Voilà. Donc je résume, vous les avez, cadre de vie, la nature qui revient, le logement, qui est un point essentiel, la vitalité économique bien sûr, et la traduction dans l'investissement, ce qui est à droite c'est l'investissement, mais peut-être aujourd'hui on a dit que c'était un débat d'idées. C'est pas savoir combien ça va coûter, puisque ça, nous pourrons le financer. Tout ce qui est marqué là sera finançable sans emprunt. Je ne me trompe pas. La base nautique, peut-être on sera obligé. Là, dans notre PPI, on va arriver à financer cela. Hein. Je ne me trompe pas. Je ne fais pas de bêtises. Voilà. Donc, il y a deux mois, je ne savais rien. Enfin, on tendait vers. Voilà. Donc, maintenant, on a fait un point d'étape sur le bilan de l'année 2016. Là, c'est les perspectives sur 2017, le PPI et des débats qui auront lieu sur notamment le logement ou la place du vélo, la place des placements doux dans la ville, où nous allons bien sûr décliner de manière opérationnelle et progressive. On ne va pas tout faire du jour au lendemain. Je précise que les résultats du schéma directeur ne sont pas encore obtenus. Ce sont des orientations. Ils le seront au mois de mars. Il y aura un retour qui vous sera fait à vous tous par leur aménagement qui, pour le compte de la commune, avec la commune, vous fera ce retour-là. Et on déclinera, bien sûr, un plan opérationnel qui revisitera la place de la voiture à Carnon, à Mouillot, et la manière de se déplacer à Carnon, à Mouillot. Voilà. Voilà. Donc je mets ces orientations au débat avant qu'ensuite on y mette des chiffres. Monsieur Bourguet, à vous l'honneur.
D'abord, j'ai un petit regret, c'est qu'on a reçu ce PPI aujourd'hui, alors que dans les documents de convocation à ce conseil, il n'était pas. Donc, c'est embêtant, parce qu'on a quelque chose de très détaillé, de très précis, et on en prend connaissance au moment du débat. Je trouve ça un peu regrettable quand même, parce que ça gêne un peu le débat. Vous nous faites des projets sur 3 ans.
Il n'y a pas de piège.
Non, il n'y a pas de piège, mais ça fait rien. On aurait aimé. On aurait mieux à avoir le temps d'en prendre connaissance.
Bon, monsieur Bourguet, par rapport à ce qu'il était avant, vous regarderez, si on joue au jeu de cette erreur, cette différence, je doute que vous en trouviez cette. Honnêtement, ça laisse entendre que des fois c'est pas honnête. Bon, c'est une manière de parler. Je peux vous dire, bien franchement, que ce PPI n'a pas évolué et qu'on vous a pas, on vous a pas fait le coup du dernier moment. Reprenez sur les idées, monsieur Bourguet.
Oui,
parce que vous avez voulu et vous avez raison. J'ai écouté ce que vous avez dit les uns et les autres. Vous voulez de la concertation, c'est normal. C'est normal de le dire et c'est bien de le faire. Ce soir, je vous propose de le faire. Voilà. Après, je ne vais pas rentrer sur le terrain de la chicaïa. Je ne pense pas que ce soit votre intention, en plus, de commenter un certain chiffre. On parle d'intention et de principe, d'orientation.
Ce n'est pas mon intention, mais simplement, je fais la remarque, parce que vous savez que moi, ce que je défends, c'est la démocratie participative. Dans la démocratie participative, il y a même le budget participatif. Moi, pour parodier mon ami Laurent, je dirais que pour que je vote quelque chose comme ça, il aurait fallu qu'il y ait un débat carrément public sur certains investissements, sur certains choix. Et peut-être que ça viendra un jour. Si vous en trouvez une porte, on en trouverait une autre. Voilà. Alors, vous avez évoqué au début vous avez évoqué mon courrier, qui est un sujet d'actualité.
Pourquoi je vous écoute parfois, monsieur. Oui. Je ne vous entends pas toujours, mais je vous écoute.
Non, mais si je vous ai envoyé ce courrier, c'était justement parce que je savais qu'on aurait ce débat aujourd'hui. Et le sens de mon courrier, c'était bien de dire, j'ai bien compris que le département ne voulait financer que les goudrons silencieux. Les gens demandent plus que ça. Donc le sens de mon courrier, c'était de dire, est-ce que la commune peut prendre en charge ce que le département ne veut pas prendre en charge. Voilà, c'est le sens de mon courrier, c'est de dire, c'est pas la peine, voilà, d'investir dans un goudron soi-disant silencieux, parce que d'abord, c'est pas assez silencieux, et qu'ensuite, ça règle pas les problèmes de pollution. Donc, je pense que c'était le rôle de la commune, dans un plan MPPI de 3 ans, d'investir dans des murs anti-bruit. Et dans les sujets d'actualité, il y a un sujet que vous n'avez pas évoqué, qui est l'école de Carnon, donc qui a fait beaucoup de bruit dans les médias, vous le savez. Donc je ne sais pas si c'est prévu de rénover cette école. Au-delà du problème de l'amiante, on me dit qu'il y a des problèmes de température, de difficile à chauffer, de voilà. Donc je pense que le problème de Carnot, ça fait partie aussi de ce débat aujourd'hui, de savoir si on va refaire cette école ou non. Voilà pour le moment.
Monsieur Bourguet, je vous réponds très facilement. Je peux comprendre une préoccupation relative aux enfants que je partage et qu'on anticipait. Ça n'est pas l'objet, si vous voulez, de ce débat d'idées que je vous propose. Et autant vous m'avez écrit sur la route, je vous ai répondu naturellement, autant l'agitation médiatique ou d'une personne qui relaie une préoccupation légitime, l'agitation médiatique qui a fait que très rapidement, un jour c'est arrivé comme ça, sans que la personne en question m'ait demandé un rendez-vous, ni à Madame Campagne, ni à moi-même, et qui est reçu, c'est comme une résurgence, voilà, j'ai trouvé ça très étonnant. Pour moi c'était un épiphénomène. Je vous dis franchement que les techniciens, les commissions de sécurité, M. Craver, M. Borel, qui se sont intéressés à les services de cette affaire, peuvent vous dire que il y en a même des. C'est qui a fait une recherche sur l'amiante. Il y a quelqu'un qui a fait aussi une recherche, mais bref, il y a une expertise qui a été faite là-dessus, qui met totalement hors de danger, l'idée de danger. Alors c'est vrai que quand on agite le principe des enfants, la vie de l'enfant est encore plus sacrée que toute autre vie. J'en conviens, même si quand même, la vie c'est la vie, point. Voilà, je ne veux pas laisser entendre que là-dessus, on ait été négligent. Je me permets de vous dire qu'en revenant sur le sujet, si vous voulez, ce soir, on est dans le DOB. Et par rapport à votre demande, à la convocation que vous recevrez pour le débat du budget primitif, je vous donne ma parole que vous aurez le PPI définitif. Il sera définitif. Vous voulez que je vous dise, le PPI définitif, il n'est pas encore fini. Comment voulez-vous que je vous donne un chiffre qui n'est pas encore totalement bouclé? Aujourd'hui, on est dans... J'allais dire, c'est pas un coup pour rien, mais ça doit. Nous, si on veut préparer. La concertation, c'est quoi, monsieur? Je vous renvoie au principe. Si j'ai décidé avec mon équipe de ce que je ferai, c'est même pas la peine qu'on se réunisse. On laisse une part d'ajustement au débat qui alimente, justement, s'il est riche en propositions et s'il nous permet de découvrir des horizons que nous n'avons pas suffisamment explorés. On était dans la compte, il y a des propositions qui ont été faites. Je ne dis pas que je vais les suivre, je ne dis pas qu'on peut les suivre. Justement, vous, me demandez quelque chose de définitif, alors que ça ne l'est ni dans notre tête, ni sur notre tablette. Voilà. C'est ça. Je ne suis pas dans une posture.
Oui, oui.
Je suis dans la réalité des choses.
Donc le débat est ouvert. Est-ce que la mairie peut envisager de prendre en sa charge les murs de protection des riverains, des routes, au moins de deux, au moins à Carnon et à Moulieu sur la D189. Voilà, c'est un débat que je pose.
Je ne vais pas vous répondre.
Ensuite, à l'école de Carnon, vous me dites qu'il n'y a rien à y faire, qu'il n'y a pas de problème. Bon, tant mieux.
D'accord, je serai la structure, non. En revanche, pour le département, vous me demandez de prendre une compétence du département en termes d'entretien de la route, en définitive.
Non, on peut les faire sur la partie qui nous appartient.
Oui, écoutez, vous verrez la note, ça va être quelque chose de gigantesque. Et la délivrance des permis de construire qui a été faite...
C'est l'ordre de 2 millions d'euros.
Voilà, c'est pas mal, c'est vrai. Alors qu'à Carnon, les gens sont très satisfaits des travaux qui ont été faits. Commençons, si un jour on peut le faire, moi je le souhaite. Aujourd'hui,
2 millions d'euros, on peut très bien envisager de dire sur 3-4 ans, on protège nos riverains, c'est quand même important.
Moi, je me trouve. J'ai un dialogue permanent avec Mme Mathéo et les riverains. C'est un sujet que nous suivons. C'est une revendication dont la satisfaction tarde à venir, c'est vrai. Le département, quand même, bouge. Et je pense que si nous arrivons à faire cela, ça sera déjà le premier étape. Ensuite, on envisagera d'autres étapes dans les compétences, qui sont nos compétences obligatoires, les services publics. Moi, mettre 2 millions d'euros dans une compétence optionnelle, moi, j'entends bien que ça serait très bien. Voilà, oui, c'est très bien. Mais aujourd'hui, on est sur le débat d'orientation budgétaire, M. Bouguet.
C'est là-dessus que je suis.
Que vous avez ramené à la route.
Bon. Oui, mais ça en fait partie.
Sur ma route. D'accord. Monsieur Bradeil.
Oui, on vient à la deuxième partie sur les investissements. On est à bâton rompu, mais d'après ce que je comprends, on est dans un moment où on a fait les économies et où on essaye d'ajuster les investissements pour la deuxième partie du mandat. On essaye de les affiner. Bon. Vous avez tenu des propos, je vois qu'il y a eu des documents. Si on pouvait les ajouter exceptionnellement, vos propos de cadrage sur les investissements, si on pouvait les ajouter au compte rendu, ça nous donnerait une idée... de quelle est votre position, parce que moi, à chaque fois, je ressors de là enchanté, puis dès que je suis en bas de la grande rue, je me dis, mais...
On va vous le donner.
Non, mais vous le mettez, on le met au compte rendu, et oui, on dit, voilà, ça, c'est la réflexion à l'instant, c'est bien sûr. Sur, je vais pas faire une critique exhaustive de votre point de vue, puisque vous avez dit qu'il n'était pas figé, donc c'est pas la peine de se heurter.
C'est l'intérêt des débats.
Je vais vous faire plutôt une série de quelques propositions. S'il y a un peu de place, hein, si vous restez des portes, on peut mettre le pied. Vous avez vu que le centre de radiologie a fermé et que ça a fait une émotion. Et pourtant, on est aux portes de Montpellier. On est mieux placé que la plupart des quartiers de Montpellier quand on veut se faire soigner. Hein, sur la clinique de Munilaisère, sans vouloir, j'en cite qu'une, on est plus facile d'accès. Mais nos concitoyens ont vraiment un sentiment de déclassement. Ils trouvent que c'était mieux avant, parce qu'ils y allaient presque à pied, et ils trouvent que maintenant c'est plus loin. Et donc on a vraiment ce sentiment du périurbain où tout se passe à la ville et plus rien se passe à Moguio et plus rien se passe à Carnon. Il faudrait peut-être qu'on ait une réflexion sur le milieu rural qui a été aussi adaptée sur le milieu urbain, sur les maisons de santé, qui permettent de régler le problème avec des ensembles plus grands où il y a plusieurs professionnels. Ça permet de régler ce que les profils complètement libéraux ne peuvent pas régler, c'est-à-dire les murs, le matériel, ainsi de suite. Donc on pourrait peut-être avoir... Moi, je trouve que ça serait intéressant, ça aurait... une importance en termes de proximité à Moguio, ça se justifie. Ça fait le fait qu'il y ait une offre de santé, ça se justifie. Ça peut en plus s'équilibrer financièrement. Il y a un investissement à faire, mais ça peut s'équilibrer financièrement. Il y a des financements croisés, donc il y a des mannes à aller récupérer. Les villes qui en ont créé ne s'en plaignent pas. Et je trouve que ça, c'est important à Moguio, c'est aussi important à Carnon. Donc j'allais vous dire, je vous en mets deux sur le rable. Mais à Carnon, ça permettrait d'avoir cette approche de ville positionnée, puisqu'elle est à mi-chemin entre Palavas et la Grande Motte, ça permettrait sur le littoral de faire ce cœur de littoral, le cœur de cette conurbation où les gens viendraient se soigner à Carnon en première approche. Je vous dis ça vraiment décontracté, j'ai pas fait le moindre chiffrage. Donc je vous le mets sur la table parce qu'il me semble qu'il y a une opportunité économique. Et je pense que si on met un coup de pouce, on en sera content dans quelques années. Donc ça, c'est une première proposition. Deuxième proposition sur vos choix économiques. J'ai bien vu que en fait, tous les gens dont c'était le métier se débrouillaient pour s'esquiver et pour vous faire payer à leur place. Et que c'est vous qui portiez le dossier, par exemple, pour l'aménagement de l'aéroport. Je pourrais apporter une critique sur le fait qu'un logisticien, en théorie, mais c'est qu'une approche théorique, hein, un logisticien, ça mange beaucoup de mètres carrés. Et ça fait pas tant d'emplois, si on fait le ratio entre le mètre carré occupé et les emplois fournis, ça fait pas tant d'emplois que ça. C'est en règle générale ce qu'ils font, ce qui s'occupent d'économie, disent, bon voilà, un logisticien, il vous bouffe de la place. Autour d'un aéroport, c'est du mètre carré cher. Bon, donc ça, cette politique-là, on n'est pas sûr qu'elle, crée énormément d'emplois par rapport aux moyens qu'on y mettra. Les moyens et en emprise au sol et les moyens en effort fiscal. C'est une critique modérée que je vous fais, c'est une critique théorique, je ne connais pas le fond du dossier. Par contre, pour le mettre en contre par rapport aux politiques de type touristique où on a commencé à aller, puisqu'on on se propose d'accompagner un hôtel pour qu'il s'établisse à l'aéroport.
Ça paye.
Donc, on fait un hôtel, on sait que ça crée de l'emploi, un hôtel, hein, puisque c'est. Et en plus, on ne paie pas. Ramener plus de dossiers comme ça et moins comme l'autre.
Ce n'est que tout est lié, c'est-à-dire que la plateforme aéroportuaire, des fois on gagne, des fois on gagne moins. Il y a quand même, si Azix vient, c'est 220 emplois créés et 80 déplacés. Pour 300 emplois, moi je veux bien me battre. Ça, je pense que ça vaut la peine. Si vous avez une taxe d'aménagement qui vous rapporte 700 000 euros, ça vaut le coup quand même de faire un effort. Comprenez ? Voilà. Ce sont ces ordres de grandeur-là. Et c'est pas pour l'argent qu'on le fait, c'est pour l'emploi, c'est pour l'économie.
Oui,
voilà. Et la communauté d'agglomération, en mettant 550 000, elle va récupérer de la taxe, la taxe économique, de la contribution à valeur ajoutée dans la CDAE. Bon, tout ça, après, bon, c'est la contribution publique.
Je vais pas sur le fond du dossier parce que je ne connais pas assez pour savoir où sont les ratios. C'est une approche théorique. On dit que les logisticiens d'habitude. Ils mangent du mètre carré et ils exigent des aménagements en termes de route. On sait en plus que cet aéroport-là, il est un peu trop enclavé, il va falloir faire des efforts. Je pense que toutes les collectivités devraient cracher au bassinet. La région, il n'y a aucune raison qu'elle ne le fasse pas, parce que c'est son cœur de compétence, non, mais qu'elle ne le fasse pas significativement.
Vous savez pourquoi, monsieur Pradey ? La région n'a pas encore pris la main avec. On attend l'ouverture de capital détenu à 60% par l'État. Et moi, j'attends qu'une chose, que Carole Delga, elle arrive et qu'elle dise, j'y vais.
Oui, mais on est bien d'accord que la région attend. Elle dit, tant que je ne suis pas aux manettes, je ne paie pas. Donc la région ne paie pas pour des... Pas parce qu'elle a réfléchi au dossier.
Elle paie un peu, mais
elle paie un peu, mais pas autant que si elle était patronne dans l'aéroport. On est d'accord. Donc ils attendent. Ce que dit le président du département quand on parle d'aménagement de route, ce qu'il dit exactement, c'est « dites-moi ce que met l'agglo et je vous dirai ce que je mets ». Il fait toujours un ratio. Et il dit aux agglomérations « occupez-vous de vos propres affaires et je viendrai vous accompagner ». Ce qui est sous-entendu, c'est « le chèque n'est pas assez important ». Donc là-dessus, je ne suis pas là-dessus. C'est juste pour éclairer la suite du dossier. Moi, je pense qu'une des approches où on peut avoir le plus de marge de manœuvre en termes d'emploi, c'est le tertiaire de type commerce et services et le tourisme, plus précisément. Or, moi, j'ai été gentiment invité à Carnon, à l'office du tourisme pour le bilan d'activité touristique, qui, sur tous les critères, performe. On tape à 90, donc je veux dire, sur la présence des personnels, les locaux, et ainsi de suite. Là où il y a eu un débat et qui était intéressant, c'est on tape un peu moins en satisfaction sur la fréquence des animations et sur les animations, sur la qualité des animations. Et donc quand j'ai demandé quelle était notre stratégie pour améliorer ça, parce que quand on améliore ça, on améliore l'attractivité, on crée de l'emploi immédiat. C'est deux réponses très claires par rapport à ça. C'est premièrement, on a un bon accord avec les résidents qui fait que pas trop de bruit, on arrive à un accord équilibré. Très bien, je tiens compte. Deuxième accord, on est à budget, alors on m'a d'abord dit une diminution de budget, après on a rectifié, non, on est à budget constant, puisque la subvention d'équilibre de la mairie maintient le budget tel qu'il est. Je ne suis pas sûr qu'en faisant un peu plus sur le tourisme, en mettant un petit billet en plus qui nous serait peut-être moins cher que sur d'autres trucs, on n'ait pas un ratio à l'emploi qui soit plus important. Donc ça, c'est sur l'animation elle-même, sur la qualité de l'animation et sur l'effort qu'on pourrait faire. Là, il y a un gisement, à mon avis. Deuxième gisement, on a sous le coude des moyens, on a, je crois, 200 000 euros dans nos colonnes sur... sur l'aménagement par rapport aux personnes en situation de handicap et par rapport aux personnes à mobilité réduite. Or, à Carnon, on a déjà fait un effort significatif, mais pas continu. Alors, on m'a expliqué très, très en détail que c'était super, que c'était balisé et qu'ils établissaient des zones qui s'appellent des poches d'accessibilité. On part d'un point et on sait que tout le périmètre est accessible. Si on faisait un petit effort là, de voisinage entre ce qu'on fait sur le front de mer et ce qu'on fait sur le port, je ne suis pas sûr qu'on n'aurait pas une super destination pour tous, très bien labellisée, qui d'abord nous donnerait beaucoup de satisfaction en termes de dignité, parce que quand tout est aménagé, on est tous plus dignes. Là, il n'y a pas de problème, donc ça, c'est en tant qu'humaniste, ça nous conviendrait. Et en plus, économiquement, en termes de tourisme, c'est un super label. Le fait qu'on a pensé à tout le monde et que tout le monde est le bienvenu et que ça fonctionne, c'est un superbe label. Et Mme Gény, elle a tiré l'élastique le plus possible, et il ne reste pas grand-chose. Enfin, je pense qu'il ne reste pas grand-chose. Je pense que c'est une piste économique qu'on doit aussi voir au niveau économique qui permettrait de faire la différence. Voilà les propositions que je voulais vous faire ce soir.
Merci M. Pradeil, on voit que vous avez assisté au dernier comité de tourisme que vous avez animé. C'est bien. C'est bien, nous prenons bonne note. C'est bien. C'est qu'a fait Lydie ?
Alors, sur le. Donc, bon, les projets présentés, puisqu'a dit Laurent, me conviennent. Juste une précision, en fait, c'est pour avoir été sollicité, moi aussi, hein, par beaucoup de mes amis qui ont été. Qui n'ont pas compris, en fait, le déplacement du centre de radiologie. En fait, la raison, elle vient que. Enfin, la raison, vous la connaissez. Pourquoi il est parti, le centre de radiologie ? Et qu'il a trouvé aucun repreneur. Voilà. Et pourquoi il a trouvé aucun repreneur ? Moi, je pense qu'effectivement, pour avoir des investissements conséquents, et on les mérite à Millau-Carnon, notre problématique, et on est beaucoup à le penser, ça vient aussi, en fait, de notre... C'est-à-dire que notre agglo actuel, nous offre plus... l'espace suffisant pour nous développer. C'est-à-dire que c'est parti à Montpellier parce que, il faut se rapprocher et plus jouer avec Montpellier ce type d'investissement, bien entendu.
Les zones santé, ça fonctionne.
Oui, ça fonctionne, mais avant, les investisseurs, bien sûr, les investisseurs, ils regardent pas, ils regardent la ville où elle est.
Eh ben, une ville commence à mettre le premier billet, les investisseurs viennent derrière.
Sauf si la ville est dans une agglo rikiki qui ne lui sert plus à rien.
Mais voilà. C'est le président qui a rikiki, pas agglo.
Bon, je te laisse lire. fibre de ses propos. Sur la question, donc, vous avez beaucoup parlé d'identité, je pense que c'est intéressant à un moment donné, de, donc première remarque, deuxième remarque, sur les questions d'identité, donc c'est vrai, l'objectif, moi j'adhère tout à fait à ça, c'est de croître sereinement, tranquillement, en conservant son identité. Ça mériterait une réflexion d'ailleurs, c'est quoi l'identité melgorienne? C'est très intéressant d'y réfléchir. Qu'est-ce que c'est? Alors l'identité, il y a des traditions, mais il y a aussi des nouveautés. C'est-à-dire une identité qui n'est fondée que sur du passé, bah, il faut du passé, des traditions, et puis il faut aussi de la nouveauté. Ce serait intéressant, je pense, de qu'on réfléchisse un peu finalement, c'est quoi l'identité melgorienne. Je suis convaincu que nous en avons une, moi je me fais une idée de ce qu'est notre identité. Et si on en a une, justement, on n'a pas à avoir peur de grandir tranquillement. C'est-à-dire, ce sont des entités qui ont une identité qui ne se diluent pas par la croissance ou dans des ensembles plus grands. Les exemples sont multiples. Alors Montmartre, qui était un village autonome, hein, et qui a conservé son identité très forte dans Paris actuellement. Allez-y, il y a des vignes et tout. Hein. Bon, moi je connais bien Lyon, Croix-Rousse, bon, je passe, hein, etc. Castelnau, dans l'agglomération de Montpellier, qui a conservé son identité très très forte. C'est un peu une boutade, mais bon. En avant.
Ça va,
bon, bref, bon, bref, voilà, bon, d'accord. Bon, c'était, je forçais un peu très. Bon, bref, il n'y a pas à avoir peur si effectivement ça se fait en ayant de réflexion sur c'est quoi cette identité, quand même, à un moment donné, et si cette identité est alimentée par de la nouveauté. De la nouveauté. Et là, moi, je pense que ce qui manque, la suggestion que j'aurais envie de faire, que j'ai déjà faite, c'est, je pense qu'on a une carte à jouer, ici, puisqu'on nous sommes les Melgoriens, les Carnonnais sont des gens plus talentueux que les autres, ça fait partie aussi de l'identité.
Sinon, vous ne serez pas là.
Nous étions la capitale du Sud, hein, il faut le rappeler, dans l'histoire, c'est pas sans raison. Montpellier vient de nous et pas l'inverse. C'est donc bien qu'on ait plus de talent, c'est pour ça que je suis venu ici.
Le président de la métropole, s'il te plaît, à le rappeler régulièrement.
Voilà, mais là, sur ce point-là, il a raison, bravo. Et donc, espace de coworking, enfin d'économie collaborative, il faut le faire, ça. Coworking, Fab Lab, ce que vous voulez, appelez-le comme vous voulez, ça touche les entreprises des nouvelles technologies, mais ça peut aussi toucher les agriculteurs. Il n'y a aucun problème à faire de l'économie collaborative avec des agriculteurs qui souhaitent développer leur... voilà. Et là, on alimenterait notre tradition d'innovation, enfin de leadership, on va dire, de capitale rayonnante, en rafraîchissant notre identité sur quelque chose de tout à fait contemporain et moderne. Voilà. Et alors, où le faire, bah, comme le projet Fonds de Mouglio, comme il a été réduit, bah, pourquoi pas par là. On avait eu un débat sur la maison des associations, bon, il y a aussi par là, enfin bon bref. Là je pense qu'on est là-dessus, et ça rejoint un peu l'idée de Laurent, il y a une dynamique, et on peut aussi l'exploiter sur ce plan-là. Attention, moi je connais bien, enfin vous aussi, vous connaissez aussi des villages actuels qui étaient des villes avant. Qui avaient 18-19 000 habitants, et parce qu'ils ont voulu construire, tels les Trump locaux, des murs pour surtout pas grossir, irresponsabilité totale, ce sont maintenant des micro-villages. L'Ariège, je connais très bien, mes meilleurs amis étaient sous-préfets de Saint-Giron, ça a été, il y a un siècle, c'était un des départements les plus peuplés de France. Le Puy-en-Velay, c'est 40 000 habitants, ils sont passés à 20 000. Alors ils ont gardé leur tradition, c'est sûr. Mais c'est un musée. Voilà, vous rentrez, alors c'est beau, mais il n'y a personne. Quoi. Il y a une place immense comme ça, on est en jour. Donc, tout à fait d'accord sur cette idée. Juste pour conclure sur ce plan-là, donc il ne faut pas avoir peur, quoi, à condition que ce soit maîtrisé, qu'on s'interroge sur une identité, etc. À condition, à mon avis, de prendre l'armure, hein, d'être dans un ensemble qui nous rétrécisse pas. Là, on a l'impression de. Alors, Laurent, tu dis que c'est à cause de notre président. Moi, je dis que c'est les deux. Moi, je pense que les problématiques, c'est des structures et des comportements. C'est-à-dire, là, notre problème, c'est les deux, en fait. Bon, on peut en discuter. Juste un dernier point sur, pour financer tout ça, je reviens un peu sur le débat d'avant. Je voudrais savoir où on en est de ces 4 millions de préjudices d'air littoral. C'est pas une paille, quand même. S'il y a 4 millions de gains potentiels cachés, ils sont où? Quand est-ce qu'on va les toucher? Vous vous souvenez, hein, ça fait un an que vous avez fait le courrier. Et deuxièmement, au niveau des ressources humaines, donc j'ai beaucoup apprécié que la présentation soit faite avec l'adjointe aux finances et l'adjoint au RH, puisqu'effectivement l'organisation, c'est d'allier le financier et les ressources humaines, puisque derrière des chiffres, il y a des hommes et des femmes, et inversement. Il faudrait peut-être, c'est une suggestion, ça se fait, j'ai vu ça dans quelques municipalités, dans des entreprises, donc évidemment travailler aussi pour les ressources supplémentaires sur des produits nouveaux, l'innovation municipale, extraordinaire, quels nouveaux produits municipaux, hors bien sûr fiscalité, et pour faire ça, faire des ateliers créatifs, avec les agents municipaux, hein, ça peut être aussi intéressant, qu'ils réfléchissent eux-mêmes, hein, sur qu'est-ce qu'on pourrait faire comme... nouveaux produits municipaux. Je suis sûr, il y en a 310. Je suis sûr que 310 intelligences qui réfléchissent à ça, ça donnerait de très bons... Et c'est, en plus, c'est intéressant, ce serait marrant, etc. Oui. Bon, voilà. Donc, les 4 millions.
Vous ne croyez pas si bien dire, dans le projet d'administration, il y a un projet sur un atelier sur l'innovation. Sur les valeurs.
Très bien.
Voilà.
Donc, ça, vous allez dans le sens que je viens de dire, là.
Eh ben oui.
Donc si je dis je suis pour, c'est j'ai le droit.
Voilà. Voilà. Pour les 4 millions, effectivement, l'État a fait appel à cette... il a fait appel du jugement en première instance. Et donc, nous sommes dans l'attente du retour. Oui, absolument. Absolument, on attend le résultat de la paix. Et bien entendu, la commune de Mogliocarno a fait savoir à l'Assemblée délibérante de l'intercommunalité qu'elle entendait quand même avoir une part de la gratification de ce qu'elle a généré à une époque où même l'agglomération n'était pas composée et forte des 8 communes qui la composent aujourd'hui. Voilà. Je ne reviendrai pas spécifiquement sur chaque intervention, mais les interventions que vous venez de faire sont dans le droit fil des échanges que nous avons eus par rapport au schéma directeur, par rapport aux valeurs de la commune, par rapport à cette volonté, je crois, qui est autour de cette table communément partagée de l'identité et de la préservation de cette identité. Moi, ce que je vous propose, c'est justement une manière de conforter cette identité, à la fois avec son histoire, à la fois avec ses traditions, à la fois avec tout ce qui est patrimonial, qui est revisité au bénéfice de l'espace public, en termes d'espace public, et pas de manière confiscatoire. La cave coopérative en est, pour moi, le meilleur symbole. La cave coopérative, initiée par nos prédécesseurs, s'est muée en espace culturel. S'est transformée ensuite en espace MJC, un lieu vraiment où tout le monde accède, maison de la culture. Maison culture publique. Et le dernier volet qui aurait pu être un bâtiment, eh bien aujourd'hui, il va être dédié justement à faciliter cette plateforme multimodale, cette facilitation à déposer la voiture un peu loin du centre. On va travailler là-dessus, sur les modes de déplacement. Ça, c'est une volonté concrète, justement, de préserver cette volonté d'aider le piéton à marcher un peu plus, à aller peut-être moins dans les salles de gym, s'il veut y aller, il peut y aller quand même, mais quelque part, à garder... tout en s'agrégeant de nouvelles personnes qui sont souvent des urbains, qui viennent chercher les avantages des urbains dans un milieu rural, qu'on ne veut pas non plus dégrader, qu'on veut préserver. Je l'ai dit l'autre jour, c'est la ville, sur la formule de la Fonsalée, un développement style ville à la campagne. Mais nous y sommes trop attachés. On le dit avec des mots différents. Aujourd'hui, nous sommes assaillis de personnes qui veulent faire de la permaculture, qui veulent... ils arrivent vite parce qu'ils sentent que c'est le besoin des gens. Et vous savez, quand on a bien revisité beaucoup de choses, quand on a bien évolué, quand on a bien avancé, quand le progrès a fait sa place, on revient aux fondamentaux. De temps en temps, on a mis de se poser les fesses dans l'herbe. C'est l'histoire du sous-préfet au champ. Et je crois que ces valeurs-là, bien, elles sont illustrées dans la place que la nature doit occuper dans l'espace urbain. Nous devons le revisiter, on le fera avec le bosquet, on le fera à Carnon, à la place Cassane, on dégagera les bagnoles, on verra où on va les mettre, peut-être à l'entrée, je ne sais pas. Le schéma directeur n'est pas encore totalement défini, mais le PLU nous aidera, et le PLU ne va pas faire ça d'ici le mois de décembre prochain. C'est une vision à long terme, une vision à laquelle une part contributive de chacun pourra être apportée, vous, élu, de quelque tendance que vous soyez, mais quel que soit le bulletin de vote que l'on met dans une urne, il y a quand même des sensations qui sont des sensations naturelles. On ne peut pas s'empêcher quand même d'apprécier ces moments de respiration, ces moments, ces plaisirs déambulatoires, ces animations. Alors après, bien entendu, chacun les voit avec, avec sa propre vision. Mais là-dessus, je pense qu'on est dans une dimension humaine de proximité où on essaie d'agréger la compatibilité d'une croissance nécessaire avec l'exigence d'une préservation d'un esprit que peut accompagner une croissance limitée et maîtrisée. Voilà. Avec la redensification, avec... Vous avez vu à Saint-Jean-de-Védas, M. Bourguet, comme vous avez vu l'article, j'ai vu Isabelle Guiraud hier dans la métropole, elle me disait, je m'envoie, parce que les gens ils disent, oui, venez, mais devant chez moi, j'aimerais toujours avoir place nette. C'est compliqué. Et s'il y avait de bonnes solutions, des solutions radicales, elles se sauraient. Et pour finir, juste un petit mot. Savez-vous que j'ai reçu il y a 3 ans, 4 ans, Marc Ponseiller, Lamine Garvi, M. Constantin, pour leur proposer une clinique, un centre, quelque chose, mais alors, pas une petite maison médicale. Eh bien, il s'avère que notre territoire n'a pas la maille nécessaire, la configuration des lieux, des réseaux viaires, et la zone de chalandise, même si c'est une patientèle dont il s'agit, et pas une zone de chalandise classique, au sens du commerce, n'est pas suffisante. Et c'est vrai qu'on est un peu absorbé, aspiré par le tropisme montpellierien, par la capacité de la ville en un temps record, ce qui m'amènera à dire qu'on travaillera aussi sur le transport. Il faut que la facilitation aux soins soit la plus efficiente possible. Voilà. Je referme la parenthèse. Pas totalement, puisque sur le projet de la Fonde Monguiot, nous avons des demandes de cabinets qui souhaitent s'installer, mais d'une manière cohérente, j'allais dire, faire une offre de soins transversale qui prenne avec 5, 6, 7, 8 spécialistes. Voilà, nous y travaillons, vous le savez, c'est pas pour tout de suite, mais ces projets-là méritent une réflexion et Monguiot mérite justement ces espaces de soins. Alors, pour Carnon, je ne dis pas que c'est impossible, on verra comment la ville peut évoluer, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué. Bien. On s'en tient là, hein? En tout cas, merci pour ces échanges, les uns et les autres. Il nous faut, même si ce n'est qu'un débat d'idées, alors c'est vrai que ça pourrait être très compromettant, si vous étiez d'accord avec ce qu'on propose, ben, une fois on n'est pas coutume, vous pouvez aussi vous faire plaisir et nous faire plaisir, hein? Même s'il y a les restrictions, je comprends que vous souffrez de restrictions, pas que budgétaires, hein? Mais enfin, des fois de se décoincer la main, comme ça peut faire du bien. Bien, allez, je plaisante. Monsieur Pradeil.
Explication de vote. Vu qu'on était sur l'analyse, on est approchant sur les orientations, vous avez bien signifié qu'elles étaient ouvertes. Je ne vais pas voter contre, comme je fais d'habitude. Je vais aller sur l'abstention, lever la main à l'abstention, et en levant la main, ça sera une rampe.
Très bien. Monsieur Pradeil, nous progressons. Le débat progresse, je vous en remercie. Voilà. Donc, qui est contre les propositions qui ont été faites? Qui s'abstient? Qui est pour? Bien. Je vous remercie. Je vous remercie aussi pour la sérénité des débats, la qualité des débats, des analyses. Et je renouvelle mes félicitations au service que j'encourage de tous mes voeux à persévérer. Caroline, à toi.
Alors, le projet suivant, autorisation de programme et crédit de paiement, c'est-à-dire les APCP sur la réhabilitation de l'îlot Prévert. La commune de Monguiot-Carnon a lancé en 2015 une réflexion sur la réhabilitation de l'îlot Prévert. Plusieurs axes majeurs s'étaient dégagés de cette réflexion. Conserver et mettre en valeur le patrimoine melgorien, créer un espace de rencontre et de loisirs en centre-ville dédié aux associations de la commune, favoriser l'installation d'entreprises tertiaires en centre-ville. Donc les crédits de paiement totaux sont portés de 1 725 000 prévus initialement à 3 050 000 jusqu'en 2018. Pourquoi ? Parce que ça nous permet d'intégrer la zone sud, tout simplement. Il convient donc de modifier l'autorisation de programme comme suit. Donc vous avez le petit tableau qui vous présente donc le montant de l'autorisation de paiement à 3 050 000. Mandaté sur 2015, 34 542, sur 2016, 35 300, et donc un crédit de paiement de 130 000 en 2017 et de 2 758 en 2018. Donc il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'approuver les modifications de l'autorisation de programme telle que présentée dans le tableau qui est joint.
Merci, Caroline. Donc vous avez des remarques à faire dans ce vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point numéro 4.
La participation financière 2016 des communes membres du syndicat intercommunal de protection de sites pour le maintien, la défense des traditions et coutumes camarguaises. Donc ce syndicat que je viens de citer, créé en 1973 et dont le siège est situé sur la commune du Quélard dans le Gard, a pour vocation de préserver les traditions camarguaises dans les communes des départements de l'Hérault, du Gard et des Bouches-du-Rhône. Il a notamment élaboré une charte de bonne conduite des fêtes votives destinée à garantir des conditions de sécurité maximales à l'organisation de ces manifestations. Donc, conformément au statut présenté en conseil municipal du 30 avril 2012, délibération 91, le syndicat sollicite la commune pour le versement d'une participation calculée en fonction du nombre d'habitants représentant la somme de 675,92 €. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à verser une participation financière de ce même montant au syndicat.
Ouais, juste une question, c'est juste pour savoir concrètement quel est le rôle de ce syndicat.
Laurent ?
Alors, c'est un syndicat auquel je participe en tant que délégué à la culture taurine, qui regroupe 44 villes, si mes souvenirs ne me trompent pas en nombre, et qui regroupe donc des maires, des adjoints aux maires, des délégués comme moi, et des présidents de comités des fêtes. Le but étant de discuter de tout ce qui se passe au niveau des traditions, des fêtes votives, entre autres, qui génèrent à la fois du monde et de la sécurité, et de l'insécurité aussi, suivant les manifestations, et étudie tous les termes juridiques avec des aides d'avocats. Pas plus tard qu'il y a des jours, nous étions avec la directrice du cabinet du préfet pour discuter justement des parcours de manifestations pour la sécurité. Tout ce que vous pouvez voir n'est pas fait au hasard et a été fait en concertation. Donc, et on essaye d'avoir un programme avec toutes ces villes ensemble de comment on va en avance pour maintenir toutes les traditions et entre autres, et surtout la sécurité des biens et des personnes.
Bien. Allez, monsieur Foucault.
L'essence même de ce syndicat, c'est lorsqu'il y a eu les événements en 1995, où il y a eu 3 morts sur la voie publique, Saint-Rémy, Aigues-Mortes et Sainte-Marie-de-la-Mer, où les communes s'étaient retrouvées impliquées, s'étaient retrouvées dépourvues. Et donc il a été décidé à cette époque-là de créer un syndicat qui fait qu'en cas de problème sur une commune, il y a déjà un bloc qui partage des valeurs au niveau juridique, etc.
Bien. Il faut qu'on vote sur cette délibération. Ce ne sera pas trop compliqué, je pense. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Nous avons un petit flashback à faire sur un point que nous avons oublié dans notre empressement. On n'a pas parlé du rapport d'orientation budgétaire sur le port. Madame Bendinelli commençait à se faire des soucis, Patricia.
Le budget prévisionnel du port de Carnon pour 2017, alors première chose à dire, c'est que grâce à une gestion rigoureuse, le budget du port fait ressortir des résultats excédentaires qui permet une maîtrise de l'évolution de la tarification, un maintien de l'entretien performant des ouvrages et qui permet la réalisation de travaux et acquisitions nécessaires au développement du port.
On est resté sur une augmentation à peu près de 1% pour les droits de quai et pour les levages, on a réduit les tarifs, on a fait des promotions.
Alors, au niveau du recensement des projets à venir pour le port, au niveau du fonctionnement en 2017, la réhabilitation de l'aire de carénage. Et en 2019, l'opération de dragage. Au niveau des investissements, 2017, la construction du parc à bateaux, le comptage individuel électrique de chaque borne, 2018, une mise en accessibilité de la capitainerie et ses abords. La liaison rive droite-rive gauche.
Qui est envisagée, mais pas encore actée.
Voilà. L'aménagement canal et abord. 2020, la réhabilitation stockage à terre. 2021, l'aménagement urbain parking avant-port. Et 2021, le recalibrage des pontons contre envasement.
Oui, je me permets de faire un petit commentaire, c'est-à-dire que là, on a listé une série de mesures de rénovation ou de requalification de la zone portuaire qui ne seront pas forcément toutes exécutées, puisque leur aménagement, nous avons missionné la SEPL pour étudier l'aménagement du canal et voir l'intérêt d'avoir de nouveaux pontons d'amarrage, voir ce que ça rapporterait au regard de l'investissement. Il ne faut pas non plus faire les choses n'importe comment. Nous avons aujourd'hui un sujet primordial au port, c'est l'envasement du port qui pose problème. Nous avons 30 000 mètres cubes de vase et une cubature très importante à enlever. Nous nous rendons demain matin à Gruissant avec M. Balsamo, Mme Bendinelli et une personne de leur aménagement pour justement porter cette discussion auprès de nos collègues, auprès de notre ami Serge Payares, puisque vous savez que les mesures environnementales aujourd'hui font que le train de la Vranche, qui était un endroit où nous déposions les vases après un essuyage, bien sûr, nous assurait qu'il n'y avait aucune nocivité, ne nous sera pas forcément accordé. Nous avons fait la demande au service de l'État. Et si tel était le cas, qu'il faille transporter les 30 000 mètres cubes à Bellegarde ou faire du clapage en mer, c'est une somme par million, une somme exponentielle dont je n'oserais pas vous donner le chiffre. J'espère que nous n'en viendrons pas là. Donc nous avons initié un dossier que nous allons discuter avec l'État, que nous allons également exposer au CIMBO, syndicat de bassin versant, qui est celui qui recueille une partie des agrégats qui charrient et qu'ensuite qui circulent de l'étang vers le port. L'aménagement, l'élargissement du canal semble avoir, au dire des professionnels, des pêcheurs, participé justement avec ces vases qui ont été bougées, ces déplacements de masse d'eau et ces passages beaucoup plus larges, semblent avoir contribué de manière très accélérée à des dépôts que nous n'avions pas jusqu'à présent identifiés comme devant être ôtés tous les 5 ans. Voilà. On était, le premier dragage s'est fait en 2000, à peu près, hein, Patricia, le second.
La première
dragage,
c'était 2010.
Voilà.
Et déjà, on a atteint des seuils de... On a des proches à 1 mètre d'eau par secteur.
On arrive à perdre 70 cm par an, parfois, effectivement. Donc, si nous voulons avoir un port compétitif, un port sécurisé, nous devons anticiper. Alors, vous savez que ces demandes sont des demandes très longues auprès des services de l'État. Elles sont coûteuses et bien sûr, elles ne sont pas neutres en termes ni budgétaires ni environnementaux. Donc, c'est plus la gestion réglementaire qui nous pose ce problème que la gestion financière, la gestion des projets où, comme vous le savez, nous allons refaire la capitainerie. Donc, la capitainerie, nous devons de proposer une accessibilité. Tout à l'heure, M. Pradeil parlait d'accessibilité, mais là aussi, ça fait partie des maillons qui manquent. L'accessibilité à toutes les personnes qui veulent embarquer. Et à l'occasion de cette accessibilité, compte tenu de la vétusté et de la fragilité de certains éléments constitutifs du bâtiment, eh bien, l'étude montre que la meilleure solution et la moins coûteuse, c'est la rénovation totale que nous faisons, bien sûr, en concertation avec les plaisanciers, les pêcheurs, et avec, bien sûr, tous les gens qui, de près ou de loin, participent à la vie portuaire. Voilà. Vous voulez dire quelque chose dans la commandance ?
Oui, je voulais dire à propos de l'ensablement du port. Oui. Il y a un phénomène, en effet, la mise à gabarit international du canal du Rhône-Assette est quelque chose d'important parce que il y a une, je veux dire, ces gros pousseurs remettent en suspension tous les sédiments et les limons qui sont apportés par le bassin versant. Donc c'est bien le bassin versant qui est l'origine de Célimont. Donc c'est toute l'urbanisation qui est en cause, et c'est pour ça qu'on vous a écrit par rapport au SGIR, enfin le schéma général pour les risques d'inondation. Et là, il y a eu un travail qui n'a pas été fait et qu'il va falloir faire en urgence à ce niveau-là, mais tant au niveau de la commune que de tout le bassin versant. Et on va avoir une formation sur GEMAPI bientôt. Je veux dire, c'est véritablement essentiel. Mais il y a aussi un point qui est essentiel, c'est le barrage anti-sel qui a été créé à la fin des années 70 entre le port de Carnon et le canal du Rhône à 7. Ce barrage anti-sel coupe la largeur du canal sur la moitié de sa largeur et en plus remonte les fonds sur 80 cm. Si bien qu'il y a une conséquence par rapport, je dirais, aux sédiments. Avant, je dirais, les sédiments les plus grossiers, quand il y avait des inondations, étaient charriés jusqu'à la mer et donc faisaient partie après, grosso modo, de l'ensablement des plages. Tandis que maintenant, ce n'est qu'un goulet de resserrement. Et donc, qu'est-ce qui sort après? Une fois que le courant a été dynamique dans ce boulet, il se retrouve avec les deux ailes du port à sa disposition, et donc là tous les sédiments fins, toutes les vases viennent s'accumuler. Donc véritablement il y a une urgence, c'est de faire sauter ce barrage anti-sel qui en plus ne fonctionne plus depuis l'hiver dernier où il a été en position fermée. Donc c'est une véritable catastrophe et ça c'est une urgence.
Merci. Madame Comparanos, je vous informe, si toutefois vous n'étiez pas informé, que le département est en train de faire une étude. Je suis allé voir le président Mesquida il y a plus de deux mois pour justement m'entretenir de ce problème, puisque aujourd'hui la salinité de l'État quand même dépend de ces barrages, de ces portes anti-sel, comme elles portent bien leur nom, et que en termes de d'envasement, effectivement, nous sommes dans une appréciation commune des enjeux. Nous avons lundi prochain à Carnon, vous êtes invité à participer, une réunion sur la GEMAPI, vous le savez. La gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, qui va être une nouvelle compétence de l'agglomération.
C'est à Carnon. C'était avant ici?
Non. Ça a changé de lieu.
C'est à Carnon. C'est à Carnon parce qu'on pense que. Enfin, pas sur du tout, c'est bien que ce soit à Carnon. Pourquoi pas à Carnon? Ici, il n'y a pas assez de place. Voilà. Donc, c'est une thématique qui. C'est le problème que nous avons. Après, le port dégage un petit excédent de fonctionnement de 400 000 euros sur lequel nous sommes taxés au niveau de l'IS. Bon, malheureusement, enfin, c'est comme ça. Donc, les charges sont équilibrées et les projets qui nous sont présentés sont ceux, justement, de l'aménagement du parc à bateaux. Enfin, je ne vais pas présager de la prochaine délibération, mais en fait, il va se passer des choses, disons, sur cet endroit. Et la nécessité d'approprier et de mettre une vitrine différente de celle que nous connaissons aujourd'hui avec nos collègues palavasiens, et bien celle de rénover le parc à bateaux, et avec la base nautique qui à côté fera également pour neuve. Je pense que Carnon Ouest, Madame Comparanos, ne sera pas oubliée. On ne perd pas de vue, cette requalification urbaine et ces nouvelles fonctionnalités que le port va avoir. Avec également, nous étudierons comment la capitainerie peut-être participer, c'est un poumon, hein, la capitainerie, je l'ai dit l'autre jour au du port, c'est vraiment un centre névralgique de Carnon, et avec la rénovation du bosquet, cette rénovation de la capitainerie, peut-être dans son architecture ou dans sa configuration, devra peut-être être un petit peu plus, peut-être il y aura un mouvement, peut-être il y aura quelque chose d'aménagé, on ne sait pas encore, mais enfin, en tout cas, il y a un beau projet qui sera fait là-dessus, voilà.
Juste à propos de ce document, le parc à dériveur, oui. Donc c'est à la limite de Carnon et de Palavas.
C'est celui dont je parlais, madame.
Voilà. Parc à bateau. Il est marqué qu'il n'y a que 26 usagers qui bénéficient d'un contrat, donc qui payent.
De Carnon.
C'est un peu pas beaucoup par rapport au nombre de bateaux.
Ils sont 36 en tout.
On les a tous identifiés, on n'en a pas recruté, on n'en a pas mis dehors. C'était par rapport à l'occupation initiale de ce parc à bateaux que nous allons aménager de manière sanitaire et sécuritaire, et puis aussi esthétique, du mieux. On va faire ça avant la saison, disons François, fin mars, avril.
Oui. Parce qu'il y avait un permis il y avait un permis qui avait été affiché,
oui.
Puis le permis a été enlevé et là il n'y a rien qui a l'air de se passer, donc pardon,
ça va démarrer
mi-mars, on a dit, c'est ça,
oui, les entreprises sont désignées,
oui, oui, oui. Voilà, les marchés sont passés, hein, voilà. Voilà, donc je vous demande si vous voulez. Donc on a eu une subvention pour ce parc à bateau, le département nous a aidé un petit peu, il nous a donné 58 000 euros, et bien sûr nous demanderons des subventions pour la construction de la capitainerie, dont grosso modo le coût est à peu près envisagé à 2 millions d'euros, voilà, que la capitainerie financera avec ses fonds propres, un emprunt bien sûr, et avec quelques subventions. Donc je vous demande d'approuver ces intentions. On est toujours dans une orientation budgétaire, hein. On n'est pas dans une précision mathématique. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Je demande à Mme Favier de continuer à dérouler des. Ben, je précise, j'ai félicité tout à l'heure la directrice financière, Mme Bach, je félicite Mme Beninelli pour la tenue chez notre directrice du port qui doit faire face à un accueil souvent difficile avec des complications relatives à des longueurs de bateau, des amasements, et pour le moment nous y arrivons. Je souhaite qu'on y continue avec l'aide de M. Balzamo. Allez, on continue s'il vous plaît.
Alors, bilan des cessions et acquisitions 2016. Donc, il n'y a pas eu de cession. Par contre, il y a eu des acquisitions suite à la délibération numéro 176 en date du 1er octobre 2012 et portant sur la cession à titre gratuit de la parcelle cadastrée CN 720. Il y a eu aussi la délibération numéro 10 en date du 10 février 2014 et portant sur le legs de tous les biens de Madame Pellissier à la commune, c'est-à-dire 6 parcelles de terre en Ardèche à Issambas, une habitation de village sur la même commune et une maison avec terrain à Moguio. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de prendre acte du bilan des cessions et acquisitions 2016. Le point suivant, le versement à l'Office du tourisme de 20%.
Oh, puis il faut voter là.
Non, bah, non, c'est
on prend
acte. Moi j'ai enchaîné. Donc le point suivant, versement à l'OMT de 20% de la taxe additionnelle aux droits de mutation. Monsieur le maire propose d'affecter 20% du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement exigibles sur les mutations à titre onéreux à l'Office du tourisme chaque année lors du vote du budget primitif. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser monsieur le trésorier à effectuer la répartition des sommes directement auprès de l'Office du tourisme de Carnon.
On y va. Contre, abstention, je vous remercie.
Le point suivant est la fixation des tarifs et modalités de perception de la taxe de séjour 2017. Donc, il convient de fixer les tarifs de la taxe de séjour pour l'année 2017. Les collectivités territoriales et leurs groupements ayant institué la taxe de séjour pour 2017 peuvent apporter des modifications à leur délibération jusqu'au 1er février 2017. Donc, on vous a présenté sur un tableau les différentes évolutions proposées selon le type de lieu, enfin d'hôtel de tourisme. Il y a des exonérations pour les mineurs de moins de 18 ans, pour les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employé dans la commune, pour les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire. L'indexation, les limites de tarifs de chaque catégorie augmenteront automatiquement chaque année en étant revalorisées par rapport au taux prévisionnel d'évolution des prix de la consommation des ménages, hors tabac associée au projet de la loi de finances de l'année. Elles seront arrondies au dixième d'euro supérieur. La mise en place de la taxation d'office depuis le 1er janvier 2016, en cas d'absence de déclaration par un hébergeur, la collectivité pourra utiliser légalement la taxation d'office. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'approuver les tarifs proposés ainsi que les exonérations consenties.
Bien, merci. Caroline, je crois que tout le monde a bien suivi avec ce séjour. On passe au vote. Contre ? Abstention ? Une abstention ?
Ça ne baisse pas, ça.
Commentaire de vote, voilà.
Eh, faut bien payer les animations, M. Capelletti. Point numéro 8.
Monsieur Capelletti ne sait pas que quand on ne lève pas cet argent-là, c'est le budget qui complète et qui fait une subvention d'équilibre. Donc tu préférerais que ce soit le budget général plutôt que la contribution des touristes qui paye les animations.
Monsieur Capelletti sait par des études que je tiens à ta disposition qu'une baisse d'un euro sur ces taxes en rapporte deux. Rentabilité 100%.
Il est certain que la taxe... On est à 130 ou 140 000 euros de...
Et une base documentaire sur études réelles, hein, enfin, publiée, vous allez sur Google, etc. Hein.
Un annexe. Bon. Effectivement, le budget général contribue. Il ne suffit pas pour contribuer à l'animation de l'OK. Projet de délibération numéro 8. Concession de plage numéro 1. Alors... J'expose que dans le cadre de la délégation de services publics visant à l'attribution des lots de plage 1, 2, 6, 8, 9 et 10, portés au traité de concession État-commune, Monsieur le préfet de l'Hérault n'a pas approuvé le sous-traité d'exploitation du lot de plage numéro 1. Vous savez qu'il avait été attribué l'année dernière lors d'une commission d'attribution à un délégataire, en l'occurrence Mme Zaonero, qui a été disqualifiée au motif qu'elle avait omis de déclarer une condamnation pour occupation abusive de l'espace public et que ce vice de forme avait vicié la procédure et avait empêché la commune de bénéficier d'une attribution qu'elle avait, elle, déléguée et que le sous-traité de concession n'avait pas été accordé par M. le préfet. Donc, après publication de l'avis de concession, la commission de délégation de services publics, dont les membres ont été désignés par délibération numéro 132 du 3 octobre 2016, a procédé à l'examen une première fois. Les candidats ont été retenus ce jour-là. Et l'analyse des offres s'est déroulée le 15 novembre 2016. Alors, vous serez peut-être, comme moi-même, étonné du délai qu'il nous a fallu. Pour faire cette attribution, il s'avère qu'il y a ce qu'on appelle une loi Sapin, la loi Sapin, qui définit un délai incompressible entre le moment où l'analyse est faite et le moment où elle peut être attribuée en conseil municipal. Voilà, donc c'est un délai réputé servir à une éventuelle négociation. C'est ainsi que les textes mentionnent cette affaire. Donc, ce n'est pas une lenteur administrative, c'est simplement le fait que c'est un délai incompressible. Donc, conformément à l'avis de la commission de délégation de services publics, il est proposé d'attribuer le lot 1, c'est-à-dire location de matériel et restauration de plage sur une surface à modiller de 1200 m2 à la SAS JLGC, c'est-à-dire... aux frais et aux costes. Il est proposé au conseil municipal, aux membres du conseil municipal, d'approuver le choix du délégataire de la DSP plage pour une redevance annuelle de 150 000 euros par an et pour une durée de 4 ans. Je peux dire aujourd'hui que l'offre présentée par l'attributaire qui vous est proposée était une offre particulièrement nourrie et par des chiffres, et par des dispositions techniques
et les dispositions, toutes sortes de dispositions qui avaient été déjà présentées dans une première, dans un premier appel d'offres. C'est-à-dire que nous avons eu des enchères plus hautes, celle-ci a été la plus haute, et la commission, à l'unanimité, a attribué cette concession à un dossier qui était particulièrement soigné. Voilà. Ce que j'espère, c'est qu'aujourd'hui, cette affaire pourra, disons, reprendre le cursus qu'elle aurait dû avoir l'année dernière. Il est vrai que l'attributaire a changé, mais nous ne sommes pas ici pour faire valoir une préférence. Nous sommes ici pour le service public et la régularité des attributions. Madame Combarnet, un commentaire ?
Juste un commentaire. Le candidat qui a remporté l'appel d'offres est celui qui apportera le moins de nuisances aux riverains de Palavas et de Carnot. Et comme en plus c'est celui qui paye le plus,
c'est que du bonheur.
Voilà. Mais il y a un petit mais, il paraît que je dis souvent le mais, c'est que il va y avoir le parking, je suppose que l'hôtel va ouvrir, et donc le parking à voiture va être créé. Et l'étude d'impact qui avait été réalisée, je voudrais dire les trois premières pages c'était bien, mais la quatrième ça allait mal parce que les hydrogéomorphologues avaient oublié qu'on était sur un lido. Et si bien que l'urbanisation successive à Carnon-Ouest a fait que nous nous trouvons dans cette zone-là, dans un entonnoir. Et véritablement, le bassin de rétention qui est prévu est vraiment à augmenter. Il y a des possibilités. J'étais sur le terrain, on peut l'élargir vers le nord de 10 mètres. Et il serait judicieux de supprimer une dizaine de places de parking qui sont très, très rarement utilisées. Monsieur Cravert avait fait une proposition qui n'a pas marché pour la rue des quatre fondateurs parce qu'il y avait à négocier avec des privés. Mais là, véritablement, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut agir, il faut vraiment faire quelque chose, je veux dire, en prenant des précautions. Véritablement, la seule solution pour pas qu'il y ait 1,12 m d'eau dans cette rue qui n'avait jamais été inondée, il y a quelque chose à faire là. Moi, je veux bien venir travailler avec vous là-dessus, mais il faut faire ça vite et bien.
Monsieur Cravert vous répond et on conclura l'échange à ce niveau.
Les travaux, le refus que nous avons eu avec les copropriétaires, nous avons opéré d'une autre manière, nous l'avons fait sur le domaine public, juste à la limite, disons, de leur propriété. Nous avons réalisé les évacuations pour permettre, disons, de court-circuiter, disons, les eaux qui descendent dans la rue des quatre fondateurs, qui partira directement, disons, sur le réseau, sur la poche de la station de relevage. Ça a été fait. Mais nous sommes avancés dans la cour, c'est exact.
Bien, voilà. Monsieur Cravert vous a répondu. Vous évoquez un aménagement qui n'est pas l'objet de la décision que je vous demande de prendre par rapport à l'attribution à la société JL Jean-Louis et Georges Guy. Jean-Louis et Georges Coste. Et Guy. Moi, je soutiens plus volontiers Georges que Guy. Jean-Louis et Guy Coste. Voilà. Bien. Oui, pardon.
Est-ce que vous me permettez
Vous êtes qui, monsieur?
Je représente une des personnes qui a répondu à la pétition du lobby.
Non, monsieur, je regrette. Tout à l'heure, si vous voulez, nous échangerons. Le principe du fonctionnement de la police et du conseil municipal n'est pas à l'exception des collaborateurs territoriaux, des directeurs généraux qui peuvent apporter une explication technique, je faillirais à ma mission si je vous donnais la parole sur un sujet dans lequel vous êtes partie prenante, mais je veux bien tout à l'heure échanger avec vous, monsieur. Voilà. Voilà. Donc, je vous demande de vous prononcer. Alors, je propose d'approuver le contrat de délégation pour la société JLGC pour une redevance dans les conditions que je vous ai exposées, pour une redevance annuelle de 150 000 euros pour une durée de 4 ans. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant.
Le renouvellement de la convention de partenariat et convention d'objectifs avec la Fédération régionale des MJC. Donc la commune verse chaque année une subvention pour le financement du poste de directrice et du poste de coordinatrice de la MJC de Mobio-Carnon. Le montant de la subvention 2017 s'élève à 102 892 euros. Subvention FONGEP déduite. Conformément à l'annexe financière de la convention d'objectifs et de moyens qu'il convient de signer avec la Fédération régionale des MJC du Languedoc-Roussillon, formalisant ainsi ce partenariat. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'approuver le 10 projets de convention ainsi que le montant de la subvention à verser pour le financement du poste de directrice et du poste de coordinatrice de la MJC de Mobio-Carnon et de bien vouloir l'autoriser à signer les dites conventions.
Bien, donc c'est la délibération traditionnelle, partenariat avec les MJC. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour eux. Le point numéro 10 est relatif au transfert de compétences de l'élaboration du PLU à la commune d'agglomération du Pays de l'Orne. Si je vous demande ce qui s'est passé le 24 mars 2014, comme vous êtes très avisé, vous allez me répondre que c'est le jour où a été publiée la loi Allure. Une loi qui dépossède le droit du sol des communes qu'elle avait jusqu'à maintenant au profit de l'intercommunalité. Aujourd'hui, il vous est proposé, dans la strate de communauté d'agglomération que nous sommes, de profiter de cette possibilité de ce que j'appellerai une démarche dérogatoire, qui consiste, dans un délai de 3 mois, avant le 27 mars 2017, de faire savoir que nous, commune de Mobio-Carnon, souhaitons disposer de ce droit du sol et ne souhaitons pas le conférer à l'autorité de la communauté d'agglomération. Je précise que cette délibération est une délibération qui sera communément adoptée ou pas. Enfin, je ne suis pas dans ce commentaire-là. Chaque commune fera ce qu'elle voudra. Donc, je vous propose, afin de garder cette forte prérogative, une des rares finalement qui nous reste, quand la nôtre est passée par là, c'est celle de nous opposer au transfert de compétences de l'élaboration de notre PLU à la communauté d'agglomération du Pays de l'Orne dans le cadre de la loi précitée, en sachant tout de même que notre champ est limité, puisque le SCOT que nous sommes en train de rédiger est ce qu'on appelle un PLU intercommunal et est un SCOT intégrateur, c'est-à-dire qu'il emporte sur un PLU communal. Néanmoins, nos prérogatives en termes de droit du sol, c'est nous qui pourrons quand même en disposer. Un commentaire, M. Pradel?
La loi permet, indique qu'il faut transférer cette compétence au niveau intercommunal, ce qui peut être d'une efficacité formidable. C'est là qu'on fait le PLH, hein, par exemple. L'habitat, c'est là que ça se décide. Les transports, c'est là que ça se décide. Et c'est pas normal. Et c'est là qu'on faisait le SCOT. Le SCOT, c'est jusqu'à présent prescripteur par rapport au PLU, donc il l'encadrait. Donc, comme vous aviez la casquette de président d'Aglo, vous indiquiez de grandes lignes, et après, en PLU, vous les décliniez. La loi permet aussi de sursoir, si on n'est pas tout à fait dans le swag, dans, comment dire ça en français,
dans le move.
Dans le move. Oui, en français pour votre âge, c'est dans le move. Et il y a une clause de revoyure, si j'ai bien compris, au lendemain des présidentielles. Donc la loi est assez souple. On n'est pas dans le drame. Si au Pays de l'Or, on pense que c'est pas encore mûr, il ne faut pas forcer notre nature.
Bien. Merci pour cette remarque intergénérationnelle que j'ai particulièrement appréciée, M. Pradeil. Bien, allez, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant est relatif, eh bien, un des aspects que j'exposais tout à l'heure en termes de valeur patrimoniale, c'est celle d'une acquisition d'une parcelle cadastrée contiguë qui fait partie du château des Comtes de Mellegueil. Il s'avère que la commune dispose d'un droit de passage constitué par un couloir qui jouxte le château et qui est la propriété de M. et Mme Drizens, 162 rue de la Motte, à l'est de Zens. Un jour ou l'autre. Par courrier du 26 novembre 2016, M. et Mme Drizens ont proposé de le céder à la commune pour la somme de 10 000 euros. Moi, je pensais que quand on cédait, c'était gratuit. J'ai appris que finalement, ils l'avaient vendu. Voilà. Donc, ce couloir, outre le fait qu'il permet un accès direct à l'escalier à vide du château, est de plus nécessaire à la création d'un accès pour les personnes à mobilité réduite. Donc, pour nous, c'était impératif que nous soyons propriétaires de ce couloir qui a été correctement... qui est proposé des dommagements très corrects à M. et Mme Drizens. Voilà. Donc je vous invite. Alors nous ne sommes pas passés par l'estimation des domaines, c'est vraiment à la marge. C'est une vente de gré à gré. Initialement, la somme était beaucoup plus importante, mais enfin. Non. Initialement, c'était. On aurait peut-être pu l'avoir pour moins cher. Mais c'est devenu plus cher. Mais la patine, M. Pradeil. Quand vous serez dans l'âge, vous verrez les prestations au fur et à mesure que le temps passe, comme le bon vin. Voilà, donc je vous propose.
Merci pour cette remarque intergénérationnelle, monsieur le maire.
Je vous propose donc d'approuver l'acquisition de la parcelle de CA195 constituée par le couloir d'une surface de 18 centimes pour la somme de 10 000 euros. Plus c'est petit, plus c'est cher, selon où ça se trouve, vous le savez. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Il s'agit maintenant d'une extension du réseau électrique pour la SAS Praxis dans la zone aéroportuaire. Alors, si vous voulez, nous avons à l'entrée de la zone une société qui s'installe, c'est un pôle de formation. Quand on arrive, c'est avant l'ESMA, vous savez, à peu près là-bas. Donc, il s'agit de... Pardon?
En zone inondable, en zone rouge.
Non, c'est une extension de réseau électrique. Si vous voulez tuer quelqu'un, l'eau et le courant. Il n'y a rien de plus terrible. Écoutez.
L'ESMA a les pieds dans l'eau, alors.
C'est juste avant l'ESMA.
Juste avant l'ESMA, il y a la moitié du terrain qui est en zone rouge.
C'est à l'entrée de la zone. En principe, c'est bon. De toute façon, c'est pas moi qui délivre le permis, l'expertise hydrologique. Voilà, donc il s'avère que c'est la commune qui doit prendre à sa charge le prix de l'installation qui lui sera ensuite ristourné par l'entreprise. C'est comme ça que les contrats se passent. Donc je vous demande d'autoriser la commune à prendre à sa charge le montant des travaux et de le répercuter ensuite aux bénéficiaires de l'autorisation d'urbanisme, la société Praxis. C'est une affaire de 44 221,10 euros. Voilà. M'autorisez-vous à faire cela? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, alors, Patty, Madame Moulin, Trafort, va nous parler.
Je vais vous parler, oui, de la convention d'occupation temporaire du domaine public avec l'association Vivacity. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la commune de Montvieux-Carnon est désireuse de développer des actions d'animation sur son territoire. Et dans ce sens, l'association Vivacity est porteuse d'un projet, un projet sur Carnon qui est relatif à l'organisation de puces. Donc, la présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l'occupant est autorisé sous le régime des occupations temporaires du domaine public à occuper à titre précaire et révocable le domaine public communal, afin de lui permettre de l'utiliser dans les conditions évoquées dans le document qui vous a été joint. Il est précisé que dans l'hypothèse où le propriétaire aurait à recouvrer en totalité cette partie de son domaine public pour des raisons inhérentes aux missions de service public que lui assignent les lois et règlements, les parties conviennent que le propriétaire sera tenu de respecter un préavis d'un mois notifié à l'occupant par lettre recommandée avec un accusé de réception. Donc la présente convention est conclue sous le régime de l'occupation temporaire du domaine public. En conséquence, l'occupant ne pourra en aucun cas se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale ou d'une autre réglementation quelconque susceptible de conférer un droit au maintien dans les lieux et à l'occupation et à quelque autre droit. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser sous réserve de sa signature par l'ensemble des parties la présente convention qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2017 et prendra fin le 11 juin 2017 sous réserve du paiement intégral des redevances convenues, le cas échéant. Le montant de la redevance est fixé à 333 euros par dimanche.
Madame Moulin, il y a une chose que je ne comprends pas. Vous fêtez aujourd'hui votre anniversaire, ce qui prouve que l'annualité a un sens pour vous, alors que là, vous nous faites une reconduction que pour 6 mois. Donc, on vous souhaite un bon anniversaire d'abord, et puis je vous demanderai de répondre à ma question.
Oui, donc, alors, un renouvellement pour 6 mois, parce que, effectivement... nous allons mettre en place une consultation, ça va faire plaisir à M. Bourguet, une consultation auprès des Cardonnais, des Melboriens, voir un petit peu le devenir de ces puces, ce qu'on en pense, ce qu'on veut en faire. Et donc la convention n'a été reconduite que pour 6 mois et non pour 1 an.
Nous sommes, si vous voulez...
Alors c'est une bonne nouvelle. Et est-ce que vous allez mettre aussi dans la balance l'étude, si on maintient des puces, qu'elles puissent venir en régie? Parce que je vous avais déjà posé la question l'an dernier, je ne sais pas si ça a été étudié.
En fait, c'est autre chose, ce n'est pas dans la concertation avec le...
Alors, ouais, si c'est deux questions. Si vous voulez, dans ce que j'ai qualifié tout à l'heure de schéma directeur, dans les attentes, ce n'est pas eux qui vont nous dire si on doit ou si on ne doit pas le faire. Oui. Simplement, nous allons mener une réflexion d'ensemble de l'occupation de l'espace public, la manière de l'animer, la manière de voir si c'est une plus-value ou une moins-value. On a dit, on va se donner le temps de ne pas figer les choses, puisqu'elles sont révisables. Et à cet endroit, j'ai reçu personnellement le président de l'association Vivacity hier matin pour l'informer que ce n'était pas une mesure déguisée de fermeture, de baisse de voilure avant fermeture. Je lui ai exposé honnêtement, sincèrement, que nous allions réfléchir avec une étude dont les résultats allaient être... donné au mois de dans le courant des premiers semestres et qu'une concertation nous demanderons au cardonnais, nous demanderons aux commerçants comme quoi les choses sont révisables et amendables, on leur demandera ce qu'ils en pensent et si nous jugeons que on doit les poursuivre, nous proposerons de les poursuivre. Si nous pensons qu'elles ne sont pas de nature à être poursuivies, nous proposerons de les arrêter. On aura ce débat. Comme quoi, moi je trouve que c'est l'intérêt du débat. Voilà. Voilà. Donc, je mets cela, Madame Commando.
Simplement une remarque technique que j'avais déjà faite pour cette même zone. Le site est repéré par rapport à 2 rues. On ne fait pas une surface avec 2 rues. On ouvre quelque chose. Donc moi, je pense qu'il serait judicieux de savoir si la limite nord de l'emplacement qui est mis à disposition, c'est la RD 62 qui va à la Grande Motte, ou est-ce que c'est son embranchement RD 62E qui va à Palavas. Donc, ça me serait utile. Et ça serait utile aussi qu'il y ait la superficie, parce qu'en effet, on peut négocier des prix. Si on connaît la superficie de la parcelle qui est mise à disposition. Et ça, je ne l'ai pas trouvé dans le dossier.
Bon, dans la convention, nous préciserons dans cette convention.
Donc, il y a véritablement
l'occupation précise des limites géographiques de cet espace. Et si tant est que nous révisions au bout de 6 mois, que nous envisagions, si c'est sa suppression, ça sera vite fait. Si c'est sa reconduction, voyons dans quelle configuration elle peut perdurer ou pas.
La foire au manège est dans le même, dans le même site, et là aussi, il n'y avait pas de limite nord. Bon. Donc, est-ce que...
vous avez raison, il faut toujours poser des limites.
Il faut savoir.
Très bien. Nous y veillerons. Donc, je vous demande d'approuver la reconduction de cette convention pour une durée de 6 mois. Qui est contre? Qui s'abstient? Une explication de vote? Non? Donc, Patricia, si tu as survécu ton anniversaire,
oui, je ne sais pas si tu es survécu.
C'est la délibération de
plus. Alors, la délibération...
Un an de plus, une délibération de plus. Il est pareil. Hein.
Tout à fait. Donc, la délibération 14, qui concerne les autorisations des ouvertures dominicales et la détermination des dates pour l'année 2017. Alors, en vertu de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dit la loi Macron, les commerces peuvent avoir la possibilité d'ouvrir le dimanche dans certaines conditions. Alors, nous avons déjà contacté le Conseil d'agglomération du Pays de l'Or qui a rendu un avis favorable pour les dispositions le 15 décembre 2016. Les syndicats ont également été consultés en date du 3 novembre 2016 et les 5 dimanches proposés pour la branche automobile par la commune de Mouguet-Carnon se répartissent tout au long de l'année, donc autour du 15 janvier, 19 mars, et ainsi de suite, je vous laisse lire. La commune de Mouguio souhaite accorder un nombre maximum de dimanches dérogatoires pour les commerces de détail, soit 12, 12 est donc le nombre maximal, et vous trouvez donc 6 juin la liste validée par la CCI de Montpellier le 4 novembre 2016. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser pour 2017 l'ouverture dominicale des commerces sur la commune de Mouguio-Carnon selon les dates qui sont mentionnées ci-dessus.
C'est un débat qu'on a déjà eu,
oui.
Qui n'est pas posé par un particulier. Je vous invite donc à approuver ces dates. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Monsieur Albert, le sportif de service, va nous parler de la maison des associations et du réseau national qui est afférent.
Jean ? Demande d'adhésion au réseau national des maisons des assos pour l'année 2017. Le projet de requalification de l'école maternelle à Jacques Auquevert prévoit de consacrer l'aile sud des bâtiments existants à une maison des assos qui devrait ouvrir ses portes fin 2018, début 2019. Ce projet suppose de mettre à disposition des acteurs du monde associatif un lieu de vie favorisant les échanges et les rencontres et offrant un certain nombre de services, formation, permanence, etc. L'adhésion au réseau national des maisons des assos doit permettre de faire partie d'un réseau d'acteurs œuvrant dans une volonté partagée d'agir ensemble pour promouvoir les assos. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la demande d'adhésion auprès du réseau national des maisons des assos pour un montant de 406 euros pour l'année 2017.
Merci Jean. Bon, je ne pense pas que ça fasse l'objet d'un débat. Contre, abstention. Je vous remercie. Madame Campagne, sa voisine, bien silencieuse aujourd'hui.
Bonsoir, trop souvent paraît-il.
Studieuse.
On va dire ça. La municipalité soutient depuis toujours les départs en classe de découverte et participe au financement à hauteur du tiers du coût du séjour avec un plafond fixé à 30 euros par enfant pour les séjours sans nuitée et à 80 euros par enfant pour les séjours avec nuitée. Pour l'année 2016-2017, 323 enfants participeront au séjour pour un coût global de 12 109 euros. Monsieur le maire propose de signer avec les centres d'hébergement et associations dont la liste vous est fournie ci-dessous. Monsieur le maire vous informe que le nombre d'enfants participants peut évoluer en cours d'année selon les départs et arrivées sur la commune. Les crédits sont inscrits au budget de la commune. Il vous est donc proposé d'autoriser monsieur le maire à signer lesdites conventions.
Bien, merci Sophie. On passe au vote. Contre, abstention. Je vous remercie. Et nous terminons par M. Balsamo, Dominique, qui va nous parler de la Trump Tower.
Non. Merci.
On écoute M. Balsamo, s'il vous plaît.
Lancement d'un concours de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation et reconstruction de la capitainerie de Carnon. Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal que la capitainerie du port et ses abords doivent faire l'objet d'une mise en accessibilité réglementaire aux personnes à mobilité réduite. Au regard des eaux structurelles importants évaluées sur le bâtiment et la vétusté, il date de 70, le bâtiment, l'ASPLA, leur aménagement, avait été missionné pour proposer une solution. 5 hypothèses ont ainsi été étudiées et chiffrées. Première hypothèse, réhabilitation de l'existant, 1 689 000. Deuxième hypothèse, extension de 100 mètres carrés en toiture, 2 041 000. Extension de 400 mètres carrés en toiture, 2 484 000. Extension de 100 mètres carrés en rez-de-chaussée, 1 940 000. Pardon. Déconstruction-reconstruction, 1 666 000. Les 4 premières propositions ne répondent que partiellement aux besoins, surface insuffisante, portant ses débuts à consolider, perte de vue des riverains mitoyens sur Montefort. L'option la plus avantageuse techniquement et financièrement apparaît la déconstruction et la reconstruction sur le même site. Monsieur le maire souligne que le conseil d'exploitation du port et le conseil portuaire du 8 décembre 2016 ont respectivement un avis favorable à ce projet pour lequel il souhaiterait privilégier la solution de déconstruction-reconstruction. Dans cette hypothèse, le calendrier prévisionnel correspondant s'établirait ainsi. Lancement d'un concours de maîtrise d'œuvre, début 2017. Choix du maître d'œuvre, juillet 2017. Phase étude de juillet à décembre 2017. Démarrage des travaux, mai 2018. Livraison de l'ouvrage, fin septembre 2019.
Voilà, on va retenir cette date. Alors, M. Balsamo est victime de la présence de la conseillère, de l'adjointe aux écoles, qui lui a infligé un exercice de lecture, semble-t-il, alors que je lui demandais de résumer un petit peu. Il le sait, il est capable d'en parler comme ça autour d'un verre de Perrier.
Oui,
et là, il nous fait... Qu'est-ce qu'il nous fait, Dominique?
Voilà, mais je voulais dire...
Vas-y, tu vas nous le dire maintenant. Vas-y, tu vas nous le dire. Tu as un bon point.
Bon, j'étais un peu long, je m'excuse. Mais je voulais expliquer qu'il n'y a pas eu que la déconstruction en construction, il y a eu plusieurs études faites, et notamment ces études ont été faites également avec Patricia pour la fonctionnalité de la capitainerie, et c'est une capitainerie qui sera construite aussi pour un avenir de 20-30 ans. Quoi.
Voilà, monsieur Bazzaro. Voilà, nous confions donc une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage à leur aménagement pour un total de 95 580 € TTC. Voilà. Donc, Monsieur Pradeille.
On gagnerait peut-être en termes d'efficacité si on avait une réflexion urbanistique complète sur la passerelle, les circulations, la capitainerie. Et qu'on ait une vision globale.
On est dedans, là, le schéma directeur. La décision de la passerelle n'est pas prise, je vous le dis. Le principe de réhabilitation de l'espace du bosquet, enfin, oui, quand même. Et la capitainerie, la fonctionnalité, va également s'adosser à un projet urbain. J'ai dit tout à l'heure qu'elle était l'épicentre, le poumon. Oui, bien sûr. Elle ne va pas faire ça. Elle n'existe pas que pour elle-même, bien sûr. Ça sera vu et on vous proposera, bien sûr... Une fonctionnalité là-dessus, bien sûr. Voilà. Donc, on a voté, non, pas encore. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ainsi se conclut ce conseil d'une excellente tenue, à mon avis. Nous essaierons et nous réussirons à consigner les éléments essentiels qui ont été proposés au cours des échanges, qui seront consignés avec le PowerPoint qui a été exposé tout à l'heure. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Madame, vous avez un conseil, le prochain conseil aura lieu le 6 mars.
Monsieur le maire, vous avez parlé de vivre ensemble et de demander des propositions à vos administrés. Les administrés, vous en avez informé quelques-uns le 4 octobre sur le projet d'école de voile, de yacht club. On s'est réunis, on a discuté, on a cherché, et donc maintenant, il y a 150 personnes qui ont signé une pétition, dont 60 propriétaires riverains, 25 résidents permanents, donc, et les usagers du site. Donc là, ce n'est pas quelque chose contre l'école de voile, c'est quelque chose pour la mise en fonctionnalité de Carnon, et ça, vous avez parlé de fonctionnalité de Carnon, donc nous avons des propositions concrètes, et ici, dans ce document, vous avez ces propositions, mais les choses aussi sont, il y a des choses qui sont entre les lignes, donc je vous prie personnellement d'étudier ce dossier.
Très bien. Je l'étudierai personnellement en vous rappelant, Madame Gombardos, tout de même, que vous avez désigné un représentant qui s'appelle Michel Bouscaire, que nous avons reçu avec le directeur des services techniques.
Monsieur Bouscaire n'est pas
représentant. Ah bon, écoutez, moi je ne sais pas.
Empêche de parler les gens, qui empêche les gens de faire des propositions, ce n'est pas le porte-parole du groupe. le groupe qui est là, c'est les 150 bon. Signatures.
Il y a la question de la démocratie participative à régler à Carnot. Je vous remercie, je prendrai en compte votre dossier, madame. Bonne soirée à toutes et à tous.